Comment ça va, bande de belles personnes? En ce lundi, qu'une idée du mois. J'ai perdu, c'est l'automne, je crois, non? Ah, déjà, bah, vous voyez, instinctivement, j'aurais dit octobre. Là, au feeling. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que je ne suis pas encore totalement cramé de la rentrée. Instinctivement, j'aurais dit octobre. J'ai une énergie d'octobre. C'est plutôt un bon signe. Et je vois qu'on est le 13 novembre. Donc c'est bien. Demain c'est Noël, me dit Sarah. Non. Tout de même. Ça va vous? Bien? Qu'est-ce qu'on a ri hier soir? Levez la main ceux qui étaient sur. Il y a Juliette qui s'est couchée avant la fin du stream hier soir. On va te raconter Juliette dans un instant. Levez la main ceux qui étaient dans le sample, dans la soirée Fall Guys hier soir. On a ri avec l'ami. On a ri. Il est drôle. J'adore. Je pèse un peu le son, je suis un peu fort. Wouh ! Lundi. J'y fus, là, j'ai fait le replay ce matin, que du bonheur. Doudou dîner, bah, tu levais très très tôt alors, parce que c'était un stream de 4h30, je crois. Présent. Vous y étiez là ? Oh, c'était drôle, on a ri. Bon, d'abord, bah, j'ai été très agréablement surpris par le jeu. Enfin, je n'en attendais pas quelque chose de négatif, mais je ne pensais pas que ce serait si sympa, si coloré, si gai, si joyeux, si prenant, voilà. Donc je l'ai rajouté à ma shortlist de jeux auxquels je vais jouer en solo. Voilà. Je pense qu'il y a moyen de bien rire en me voyant échouer à toutes les maps, à tous les plateaux, voilà. Oh merci Azerka qui dit moi j'étais agréablement surpris par ton niveau. C'est pas dur hein. Quand vous êtes coaché par un champion, un spécialiste comme moment, en vrai c'est assez facile de progresser quoi. Et puis j'ai pris beaucoup de plaisir, voilà. D'abord à recevoir moment qui est un chouette gars. Bon, ça je le savais déjà parce que je l'avais déjà reçu dans l'hebdo Etienne. Salut les Belges, je vois qu'on vous salue depuis Liège. Et puis donc moment. On parle un peu de moment, on mange un hamburger parce que notre hamburger est arrivé en retard. Voilà, donc on a fait beaucoup de bruit de bouche, désolé pour ceux qui n'en peuvent plus, pendant la première demi-heure. Puis à un moment, on a été rappelé à l'ordre par Malo, mon grand de 7 ans, qui était à la maison, qui avait école le lendemain, qui m'a dit quand est-ce que tu lances le jeu, quoi, parce que c'est bien beau de manger des hamburgers, mais moi j'ai envie de découvrir Fall Guys, je lui avais promis. Il a bien aimé d'ailleurs, ce matin je l'ai emmené à l'école. Là, moi, j'en reviens à l'instant, j'ai les pieds trempés d'ailleurs, parce qu'il n'y a que moi pour sortir en basket par ce temps-là. Et on en a parlé, il a bien aimé. On va faire des petits Fall Guys tous les deux. Voilà. Il y a dans le chat, il y a le clip du burger justement. Et à un moment, le moment. Oh, c'est joli cette phrase. Un moment, le moment à suspense. Il y a Lutskis. Alors, top 1 ou pas, à lancer ce défi, ce pari. Écoute ça. Si tu veux, on cut pas ce stream. Normalement, ça me plaît, c'est comme une hebdo Etienne, c'est 3 heures. Hein. On cut pas ce stream tant qu'on n'est pas en duo tous les deux, top 1. Voilà, qu'on finit une série de tableaux, top 1 tous les deux. Donc, on cut pas le stream. Je lui dis, ok, c'est chaud quand même, parce que tu maîtrises, mais ensemble, top 1, ça veut dire qu'il faut que je suive un tout petit peu le rythme. C'est-à-dire que je sois pas trop un poids lourd, quoi. Et on me dit que Joe est dans le chat. Hey Joe, je t'entends de raconter rapidement le sample d'hier soir sur Fall Guys avec Moment. Et donc je dis, c'est chaud quand même, hein. C'est très 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 chaud comme défi. On se fixe une limite de temps. On se fixe une limite de temps parce que demain matin j'ai alors à 5h le réveil qui sonne pour la revue de presse, donc ça peut être une première limite de temps. Ils ont soyons fous, donnons-nous jusqu'à 7h 7h30 le réveil des enfants que je dois emmener à l'école. Donc on s'était dit max 7h30 7h45 fin de stream, ce qu'aurait fait un stream de grosso modo 12h, ce qui nous fait pas peur, hein. On s'est lancé dans cette aventure. Et j'ai senti que un moment, regrettait un petit peu. regrettait un petit peu parce que... Tiens, on peut se mettre des images d'ailleurs, je pense. Parce qu'il a vu mon niveau et qu'il se dit, putain, quelle idée ? Mais quelle idée, à un moment, quelle idée d'avoir lancé ce défi, quoi. Tiens, je vous mets des images d'hier soir. J'ai ri, il me faisait rire. Il m'engueulait tout le temps. Voilà, ça c'était hier soir. Il m'engueulait. Oh, c'était oh, rien que ça, rien que de voir ça, je ris. Là, je tombe, là. Et là, je gueulais, je dis, mais tu m'as pas dit qu'il y avait un trou. Tu m'as pas dit qu'il y avait un trou. Là, je l'ai échoué, ouais. On a ri. Voilà. Et donc, ouais, c'était militaire, ouais. Ouais, c'est ça. Il cadre. Hein. Il lâche rien. Hein. Il a senti qu'il fallait me mettre de la rigueur, quoi, des cadres, quoi. Et on a fini par faire top 1, mais non pas à 8h du matin, non pas à 7h45, non pas à 7h30, non pas à 5h du matin, non pas à 4h, non pas à 3h, non pas à 2h, hein, non pas à 1h du matin, mais on a fait top 1 à minuit 30, tous les deux, voilà, laissant des milliers de viewers ébahis. Et donc c'est un stream qui a duré 4h30 au lieu de 3h, voilà. Alors qu'on était parti pour un stream de 12h jusqu'à 7h45 du matin. Oh, rien. Donc moment à gauche, Mister CH à droite. Moi je suis en orange là. Tiens on va écouter.
Si il l'a fait, si il l'a fait.
Ouais. Non, c'est pas celui-là.
Si, tu l'as fait. Rappelle-toi, c'est les trucs qui descendent et qui montent. Comment il ment.
Bah non, je raconte.
Petit orange. Avec une casserole sur la tête.
Merde. Un éclairage, ouais, c'est ça, ouais.
Okay. Bâtard. Non, il va s'ouvrir. Ouais, il met deux heures. Saloperie.
Qu'est-ce que je jure?
Celui-là.
La porte d'abord. Vise pas le. Voilà.
Et Joe qui rigole. Et Joe qui rigole.
Il a préparé à sauter. Saute! Oh là là! Voilà!
Ah bien.
T'as pas réussi à aller.
En fait, il y a un moment, tu sais pourquoi j'ai merdé? Je regarde.
Et Joe qui rigole comme une baleine. Et on entend pendant tout le stream Joe qui rigole. Je crois qu'il a jamais autant ri pendant mes streams de gaming, parce qu'on rit beaucoup pendant mes streams de gaming, puisqu'on se moque. On se moque, c'est tout l'intérêt. Hein. Et j'entendais Joe qui pouffait, qui rigolait en mode « Mais il est mauvais. » Et je savais pas si c'était du lard ou du cochon, si c'était vraiment en colère. Et moment qui se mettait en colère, qui m'engueulait, qui me disait « Mais concentre-toi !» Mais il y a trois boutons, t'as trois boutons à gérer, t'as trois boutons, t'as le saut, t'as plongé et t'as le grab. Ouais, la caméra un petit peu. Voilà, c'est quand même pas compliqué. Et je le regardais, il avait son regard un peu de tueur et tout. Et je me sentais comme un enfant, comme un gamin, quoi. Ah, nom de Dieu. Et puis, il me gueulait dessus, les deux sauts de plonge, ça me paniquait. Du coup, je faisais n'importe quoi. Putain, je me retais, mais vos gueules, mais laissez-moi jouer. Qu'est-ce qu'on a. Voilà, c'était hier, c'était en replay. C'est en replay gratuitement sur ma chaîne Twitch pour les abonnés, gratuitement sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, là, dans les prochaines heures, là, maximum 13h aujourd'hui. On s'est régalé. Voilà. Oh, Qu'est-ce que j'ai aimé ce stream. Qu'est-ce que j'ai ri. Voilà. Donc, ouais, moment était en mode coach try hard, mais ouais, c'est moins qu'on puisse dire. Oh, j'ai rigolé. J'espère qu'on fera des trucs ensemble. On a déjà fait une hebdo Etienne une fois ensemble. On a fait donc un simple ensemble. Puis j'espère, oh, c'est quoi ses cheveux? Puis j'espère qu'on fera d'autres trucs. Ouais, c'est un chouette gars. Il était venu exprès de Montpellier. En plus pour venir jouer avec nous. Ticlet, merci pour le 11e mois d'abonnement. Pauline, merci beaucoup pour ce 26e mois d'abonnement. Je crois qu'on est au maxi là. Je crois qu'on peut pas faire plus si. Qu'est-ce qu'il dit? Merci pour le 10e mois d'abonnement. Maud Guillaume, merci beaucoup. J'avais pas vu pour le 26e mois d'abonnement. Thibaut, merci pour l'adorable message. Merci pour le 3e mois. La cantine, tu es là. Merci. Mon ami, pour le 14e mois d'abonnement. Kabouli 2, merci pour le 9e mois d'abonnement. Mister Patate, Nébuleuse, Mia Wallace et Gromit. Et Mathéus 9, notre ami belge ou suisse? J'ai un doute, suisse. Mathéus, notre ami streamer. Merci. Oh, le super natif qui nous raid là. Merci pour le raid, c'est adorable. Mathéus, il est belge ou il est suisse? Mathéus. Belge, merci ça. J'ai eu un doute. Et que sympa la chaîne qui vient de nous raider. Regardez, hop, je vous montre. Super natif. On parle social media dans le Super Daily tous les matins à 9h. C'est cool ça. On décrit pour vous les nouveautés sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok. Tout y passe. Bon, allez, let's go, ça follow ça. Merci pour le raid, en tout cas, c'est adorable. Merci beaucoup. Lady and Bird, merci pour le 18 mois. Ménalis, merci pour le 5e mois. qui je vous lis. Elisa, merci pour le 24e mois. Mandou76, merci pour le 12e mois. Allez, je vous lis un petit peu. La règle ici, c'est que les introductions, les bonjours, les papouilles, ça dure 30 minutes, pas une minute de plus. Et après, on enchaîne avec la... Ouais, on a fait top 1, on a fait top 1, on a fait top 1 ! On a fait top 1. Et après, on enchaîne avec la revue de presse. Je vous ai mis quelques articles de côté ce matin, bien sûr. On a fait top 1 et force est de constater que je ne cessais de progresser parce qu'on se moque, on se moque. Je ne cessais de progresser à chaque game quand même. Au fur et à mesure que je repassais sur des maps, des cartes où j'avais déjà joué, ben je progressais. Bien sûr qu'à un moment, on va se faire une map avec les modos. Bien sûr. Oh, comment ça, il y a l'ami French Yu-Gi-Oh! Qui est là aussi. Voilà, donc je progressais quand même. Hein, voilà. Et il y a même une map où je suis arrivé devant moment, j'ai mis du plus 25 points. Quoi. Voilà. Donc on s'est régalé. Et Alexandra, effectivement, on a fini à minuit 30. Donc c'est un petit stream, 4h30, petit stream. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire ainsi? Programme de la semaine. Bon, bah, revue de presse. Hein. Là, Hélène est partie en voyage d'affaires, mais deux jours de boulot là. Mais je gère. J'ai trois rendez-vous importants autour de l'univers de Twitch cet après-midi. Revue de presse actu ce matin. Demain, revue de presse. Des rendez-vous pas mal aussi. J'ai le Téléthon pour France 2 à préparer, là, la nuit du gaming sur France 2. Troisième édition. J'ai des jolis projets sur Twitch. J'ai des jolis collabs qui arrivent. Une grosse surprise dans trois semaines sur cette chaîne. Je n'en dis pas plus. Et on va dire que c'est un vrai step, une vraie nouveauté dans ce que je fais. J'en ai rapidement parlé hier. Je n'en dis pas plus. C'est trop tôt. On va streamer de la revue de presse lundi, mardi, mercredi, jeudi matin, au minimum. Et puis, vous me connaissez. Le soir, à un moment, ça va... Le soir, ça va lancer du gaming là. Ça va lancer du jeu vidéo là. Je sais pas, peut-être ce soir quand les enfants sont couchés, je sais pas. Rapidement, tu vois. 15 minutes pas plus comme d'habitude, des ailes bien sûr 15 minutes hein, tu lances 15 minutes, tu te retrouves avec 9h15 de stream, ça m'est arrivé récemment. Est-ce que ce sera comme le demande Telou The Witcher 3? Oh, vous demandez, oh, je vois du The Witcher par pitié. Vous voulez The Witcher? Voilà. Alors, The Witcher, donc maintenant il y avait, au début j'ai streamé The Witcher, j'ai rajouté Rocket League, donc je stream alternativement pour vous faire rire The Witcher 3 et Rocket League. Je vois beaucoup de gens qui réclament les suites des aventures de Geralt, de Rive, mais moi j'ajoute à cette liste maintenant Fall Guys, donc à un moment on va jouer du Fall Guys, voilà. peut-être ce soir. Oh, c'est mignon, French Yu-Gi-Oh! Dit. Mais oui, The Witcher 3 est sublimé quand tu y joues. Voilà. En même temps, j'ai bien envie de lancer quand même à court terme un Fall Guys. Ça vous dit pas un petit stream de Fall Guys pour... Est-ce que tu as... Bien sûr, j'ai pas lâché Rocket League, jamais. Non, un petit Fall Guys, non? Quentin dit oui, mais à quoi? Tu t'es pris pour Julien Lepers ou quoi? Merci Creatix pour le 22e mois. Merci Mandou76 pour le 12e mois. Fall Guys, un petit Fall Guys pour rigoler. Hein, Bobo06 me dit ce soir, si tu joues Fall Guys, je joue avec toi. Il faudra m'expliquer hein, si je dois lancer une partie avec vous, comment je fais. Hein. Avec Joe, il pourrait jouer aussi. On veut voir le top 1 en solo, c'est l'objectif. Hein. Là, on va faire du top 1 en solo maintenant. Ouais. Bon, bah écoutez, voilà. Dès que j'ai un peu de temps le soir cette semaine, là, je vous lance un petit Fall Guys. Puis après, on fera du The Witcher, on fera du Rocket League. Je ne sais pas où cette émission du dimanche soir d'exploration de l'univers du jeu vidéo va m'emmener. Je ne sais pas ce que ma vie va devenir. Hein. J'ai arrêté la matinale de France Info pour dormir un petit peu plus. J'ai dormi 3 heures. Hein. 47 Alexia se moque, mon fils de 12 ans arrive à jouer en réseau, tu devrais y arriver, Bah justement, non, c'est plus difficile à mon âge, c'est plus difficile. Tu as ouvert une boîte de Pandore, me dit Diesel, carrément. Mon gâtre TV, les habitués sont là, merci pour le soutien, ça fait deux ans que tu me supportes, tu me soutiens, littéralement. Donc je sais pas où ça va aller. Ça. J'ai dormi 3 heures, là, parce que résultat, minuit 30, on cut le stream, et après, tu ne mets pas les gens comme ça dehors, hein. Tu ne dis pas, eh, dis donc, eh, merci Manu, chut, maman, tu vas à ton hôtel, là, tu rentres à Montpellier. Non, tu. Un peu d'urbanité, un peu de. Voilà. Donc on discute un peu, blablabla. Donc finalement, je les mets dehors quand même, faut pas déconner. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Bah après, je suis maniaque. Voilà, que, voilà, Mirette est habituée, je fais le ménage après. Je ne peux pas quitter le studio si c'est pas propre comme un sou neuf. Je veux qu'on puisse manger par terre. Donc la petite vaisselle, il y avait du hamburger de partout, c'est pas possible. J'ai mis un coup de Karcher. Bon, pas d'aspi à 1h30, je peux. Pour les voisins, pas d'aspi. Déjà, ils nous ont entendu hurler sur Fall Guys pendant 4 heures. Les pauvres. Putain, en plus, au moment, il a une voix grave qui porte. Donc, pas d'aspi, mais bon, je nettoie bien et tout. Hop, la petite, le Swiffer, là. C'est propre, je l'ai passé partout. La table, hop, je lave la vaisselle. Tout. Le temps de rentrer. Je vais voir les enfants, tout le monde dort bien, etc. Et tout. De temps en temps, j'en découvre un dans notre lit, c'est cool. J'aime trop quand il y a un petit qui. Un des deux petits qui s'est faufilé dans le lit, j'adore. Et puis, le temps de se faire le petit Netflix de rigueur pour s'endormir, ben il était 2h. Réveil à 5h, ça fait 3h. Parce qu'il faut lire les journaux. Donc, il n'y a pas de maquillage là. Il n'y a pas de make-up. Hein. Ça, c'est le vrai teint. Hein. Ça va, hein? Ça va en vrai, hein. Ça va. Salut Choupi. T'as pas mis de la mousse pour les murs sur un sonorisé? Ah non, y a pas de la mousse. Je veux dire que les voisins, là, ils nous ont bien entendu jouer hier soir. Est-ce qu'un jour tu penses faire une aventure Minecraft avec Étoile? J'ai bien aimé Minecraft. On a joué avec Guil, avec Guillaume. Mais c'est encore un autre univers. Ça. Vous voulez que je meure ou quoi? Vous voulez que je meure? Yasso me dit, mais c'est notre quotidien, Samuel. Voilà, voilà, bienvenue. Bien conserver le cadre. Oh, c'est mignon. Tu peux dire le quinca même. Hein. C'est quinca, ça. Hein. C'est quinca. Ouais. Pour moi, tu auras cassé Twitch, me dit The Cold Fire, quand tu recevras Michel Drucker sur ton canapé pour un simplet. Oh, imagine. Oh, imagine, il se révèle, nous découvrons que Michel Drucker est un gamer et que oh la vache, et on lance un samplay énorme. Salut Roliab, merci pour le... Oh, j'avais pas vu, merci pour le 7e abonnement. Déjà, tu prends plus de douche, première étape, maintenant tu vas devoir choisir à quoi jouer le soir. Non, la douche, je continue à me doucher. Ce matin, je me suis rasé même, regardez comme je suis propre comme un sou neuf, je me suis rasé. Pour être beau, pour emmener Malo à l'école, puis aussi parce que j'ai 3 rendez-vous cet après-midi, notamment pour essayer de développer cette petite chaîne Twitch. Non, on se douche ici. Merci Demoiselle Amandine, c'est un joli pseudo. Merci pour cette deuxième année d'abonnement. Ouais, il y a Moulbit, c'est quoi ce pseudo? Je t'ai lu déjà hier soir, qui imagine Michel Drucker en train de jurer sur Fall Guys. Non, pas 3 rendez-vous galants. 3 rendez-vous de boulot. J'en ai 3 autres demain après-midi. Beaucoup pour développer cette chaîne Twitch. On fait ce qu'on peut. L'aviateur fou, merci pour le 15e mois. Est-ce qu'on peut parler de la photo que tu as partagée sur Insta? Bah oui, c'est moi à 17 ans. Bah oui. Tu parles de... Elle est où ma photo? Tu parles de moi à 17 ans. C'est moi à 17 ans. Voilà. Les gens l'ont trouvé Mimi. Tiens, regardez, puisqu'on parle de Twitter, regarde, je suis assez fier de mon dernier tweet. Le tweet d'annonce du stream ce matin. Hein, elle a changé la chaîne de Samuel Etienne. Mais on lit toujours les journaux, la revue de presse là maintenant tout de suite. Regardez, catégorie, ça a changé. Hein, vous vous rappelez? Où c'était Just Chatting 100%, quand on faisait que de l'actu. Catégorie récemment streamée de Samuel Etienne. Just Chatting, bien sûr. Fall Guys. Rocket League, The Witcher, Special Events, c'était ce qu'on a fait à la Paris Games Week autour de l'univers de la PlayStation. Hein. Vous avez vu? Ça a changé. Donc à propos de la photo, ah, il faut que je vous montre, j'ai une photo du Cap Management aussi de la pièce hier. Oh, je vais poster aujourd'hui sur les réseaux. Ça c'était nous hier soir, ça, elle est beau gosse. Regardez comme on est prêt à jouer à Fall Guys là. Regardez, il y a du Fall Guys de partout là. Je vais vous poster une photo du câble management aujourd'hui. Ça c'est le repas de moment dans le train sur la route là. Il y a 4 carottes, il y a 2 radis. Voilà. Il s'est bien rattrapé en arrivant. Hein. Il a démonté moment donc ça c'est ce qu'il a mangé dans le train pour venir me voir. Et il m'a démonté un burger Valouze là, avec 6 steaks dedans. 6 steaks, alors smash, écrasé quoi. Mais 6 steaks quoi. Ouais. On a ri, il m'a fait rire. Donc voilà, elle est où ma photo de beau gosse là? Voilà, ça c'est moi à 17 ans ça. Voilà. Ben oui. Parce que j'ai participé récemment à une émission avec, sur TF1 avec Arthur, qui sera diffusée au début 2024. Voilà. Un jeu de culture, j'ai été très mauvais, très mauvais. On a tellement ri. Voilà. Arthur est venu me voir à un moment gêné, quoi. Il m'a dit, ah, putain, mais qu'est-ce qui se passe? T'es pas censé retenir 2-3 trucs dans ton jeu, la question pour un champion? Je lui dis, manifestement non. On a ri. Et donc, il fallait une photo de soi jeune. J'en avais pas, j'ai pas de photo de moi jeune, j'en ai pas. Et donc du coup, ben, j'ai demandé à ma famille, à mon papa, à mon petit frère, à ma petite sœur, de m'envoyer ce qu'ils avaient sous la main, quoi. Ma petite sœur m'a envoyé cette photo. Bon, elle est cadrée, en fait, en gros, je suis en pantalon, je suis à la plage, là, c'est l'été, je suis en pantalon et torse-poil, quoi. Donc j'ai recadré quand même pour... Mais en vrai, je faisais pas trop de sport à l'époque. Les petits abdos et tout, je sais pas comment c'est la jeunesse, c'est beau quoi. Et donc j'ai cadré, j'ai juste la tête, voilà, ça c'est moi. Non mais en vrai c'est presque trop la photo complète quoi. Puis en plus on voit ma petite sœur, je voulais pas l'exposer la pauvre. Bah non, j'avais pas de dragon là. Voilà, ça c'était moi, ça à 17 ans ça. Ça c'est ma petite sœur qui me l'a envoyé. T'avais un tout petit front. C'est le même front qu'aujourd'hui. Regardez, c'est vrai que c'est bizarre. Hein. Mais c'est juste qu'il y a moins de cheveux, regardez. Hop. En fait, c'est le même front. J'ai pas changé de front. Hein. C'est juste qu'il y a moins de cheveux, en fait. Ouais, hop. Ça, c'était à 17 ans. Ça, c'est maintenant. Voilà. Moi-même, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Ouais. Voilà. 17 ans. Là, j'étais l'été entre la première et la terminale. Voilà. Ça lisait. J'en ai 17 ans déjà. Ouais. Ouais. Alors, les gens ont beaucoup dit, ah là, le coup de taureau, le coup de boxeur. Bah, en fait, si vous faites attention, en fait, j'ai toujours eu ce coup-là. Regardez. Vous voyez ? En fait, c'est là. Ma puissance, elle est là. Elle n'est pas dans les doigts, elle n'est pas dans la tête, elle n'est pas dans. Elle est là. C'est trapèze-coup, quoi. Voilà. Ça, c'est. En fait, si vous faites attention, c'est la même, en fait. Là, si je me mets hors ce poil, je ne vais pas le faire, bah, pareil, quoi. Il y a un mec, une fille qui vient d'arriver dans le chat, c'est son premier message ever dans cette chaîne. Je viens de vérifier là. C'est son premier message dans le chat. Et le gars, ou la fille, je sais pas, il écrit nul. La qualité de l'intervention. Premier message. Je sais pas à qui tu parles, on sait pas de quoi tu parles, à qui tu parles, à qui tu réponds. C'est ma tête de mes 17 ans qui te revient pas. Nul. Merci beaucoup hein, pour ton intervention. On ose attendre la suite quoi. On ose attendre la suite. Excuse-moi. Pardon. Bon voilà. Bon ouais, on va peut-être faire la demi-heure. Oh 30 minutes pile. 30 minutes pile, on va lancer cette revue de presse parce qu'on est là pour parler d'actualité, quoi. Nul. Marcus Cicéron, merci pour le Prime. Et on va y aller alors. Hein, on y va. J'espère que je ne serai pas trop nul. Idriss, merci beaucoup pour le 20e mois. Il y a des sujets. Ah, non, il y a Black in l'ours, il y a des sujets un peu fun ce matin. Les gars, on sort d'une manif nationale contre l'antisémitisme. J'ai des articles sur le Proche-Orient. J'ai eu un dossier dans La Croix sur la menace terroriste en France. Non. Je me suis levé ce matin en mode, je vais vous trouver des articles cool. Je vais lever ce matin en trouvant des bonnes nouvelles, des trucs un peu positifs. Mais pff, nul. T'avais raison, en fait, machin. Merci la Tote. Il y a la Tote qui part en vacances au Cambodge, quoi. Qui est à Roissy, qui nous regarde, là, qui part au Cambodge en vacances, quel bonheur, merci pour le 15e mois, la Tote. Non. Moi, je suis en mode trouver des trucs cool, mais en vrai, non, c'est pas, c'est un peu tristoun. Mais j'ai pas que ça, je vous ai mis d'autres choses, je vais vous montrer le sommaire. On y va ? J'ai fait un retour, là. Je sais pas si vous l'avez entendu. Nul. On y va. Délire, débauche d'effets spéciaux ici, on dit. On a beaucoup investi, donc on a beaucoup d'effets spéciaux. Est-ce qu'on y va? Il y a Evive Zorglob qui vient d'offrir 5 abonnements à la commune. C'est tout. Allez, on y va. Est-ce que vous êtes prêts pour le petit sommaire? Ouais. Et puis il y aura un petit horoscope. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait l'horoscope aussi. Merci Zorglob. Ça, c'est pas nul, ça. Voilà. Ça, c'est pas nul, ça. Hop. Non, mais hop, on y va. J'ouvre la tablette. Ouvre-toi, petite tablette. Allez, c'est go. Vous êtes prêts, les amis, pour le sommaire? Le sommaire, là, ça fait une demi-heure que le stream est lancé. Ben, c'est la possibilité, pour ceux qui ne peuvent pas rester 2h30 avec moi ce matin, eh bien, d'avoir l'essentiel de l'actualité en 5 minutes. Ok. Vamos, nos. Alors, on parle beaucoup ce matin de... De quoi? Ben, de cette marche à Paris, dans d'autres villes de France hier... contre l'antisémitisme et la hausse des actes antisémites en France. On en a beaucoup parlé ces derniers jours sur notre chaîne, dans l'Hebdo Etienne aussi, vendredi soir. C'est le Nu Parisien, bah, notamment plus de 180 000 personnes en France unies pour la République et contre l'antisémitisme. Tiens, c'est drôle d'ailleurs. Ah, c'est curieux cette une, j'avais pas fait attention. Parce que c'est une manif contre l'antisémitisme et pour la République. Et le Parisien... Mais pas dans le titre le mot antisémitisme, c'est intéressant. Ok. Tout en rappelant en petit, effectivement, que les Français ont donc répondu massivement hier à l'appel des présidents de l'Assemblée et du Sénat à marcher contre l'antisémitisme à Paris et en région. Donc je vous lirai le papier du Parisien sur cette foule immense contre l'antisémitisme. Globalement, vos journaux se félicitent, hein, de cette mobilisation, voilà, de ce sursaut national. Hein, comme le dit Libération, voilà, on lira l'édito de Dove Alfonck, qui écrit de bons éditos, je trouve, dans Libé à ce propos. La France qui dit non, hein, le Figaro s'en félicite aussi de cette mobilisation. Alors, certains, bois un peu d'eau, regrettent, hélas, je vais vous dire quoi, la présence de l'extrême droite, la participation. D'élus du Rassemblement National et de membres du parti d'Éric Zemmour dans cette manifestation. Certains comme l'Humanité, qui parle d'une marche entachée, je lis ces quelques mots, mobilisation soulignée par la présence scandaleuse, dit l'UMA, de l'extrême droite, une étape décisive dans sa prétendue normalisation. Tiens, j'ai un message de Joe, donc c'est urgent. Cool. Merci Joe. Présence obscène même, ouais, dit Maud Verniol dans l'édito de l'UMA, on lira ça. Alors je vous dis, une grosse page sur cette marche contre l'antisémitisme, et puis il y a des... évidemment c'est lié, hein. C'est vrai que la hausse des actes antisémites en France est liée à ce qui se passe au Proche-Orient actuellement, donc comment ne pas vous en parler. Donc j'essaie de vous faire un point complet sur les dernières actus dans cette guerre au Proche-Orient. D'abord, les hôpitaux de Gaza au cœur des combats, c'est un article dans Les Échos ce matin. Merci Mister Sigi pour ce soutien. L'armée israélienne affirme vouloir débusquer le Hamas dans de nombreux tunnels de Gaza, mais les organisations humanitaires s'alarment de la situation dans les hôpitaux à proximité des combats. Un autre point dans l'opinion, l'armée israélienne assiège le cœur supposé du dispositif du Hamas. Pour le Hamas, les difficultés militaires s'accumulent. Cet article est intéressant parce que pour cet article en tout cas, eh bien, le Hamas serait sur le point de comment dire, quels sont les mots d'ailleurs, attendez, de s'effondrer, voilà. Ça, c'est l'analyse de l'opinion qui cite quelques sources. Voilà. Le Hamas serait sur le point de s'effondrer tant les frappes de l'armée israélienne sont fortes, nombreuses et violentes. Et puis on ira voir l'Humanité aussi qui se désole de ces frappes qui touchent, vous le savez, la population civile de Gaza, des hommes, des femmes, des enfants, avec ces hôpitaux frappés, ce que dément Israël, accusation du Hamas. On essaiera de faire le point là-dessus. Voilà. de voir les affirmations des uns et des autres. Et puis on finira cette page Proche-Orient avec l'UMA qui constate que le président Macron, que la France change de ton dans cette crise, durcit son ton vis-à-vis d'Israël et réitère son exigence d'un cessez-le-feu humanitaire. Paris, qui par rapport à d'autres alliés occidentaux, est en train de faire un move en se détachant un peu d'un soutien inconditionnel à Israël. On lira ça, c'est l'humanité qui le dit. Voilà. Et puis un dossier pour terminer là-dessus sur est-ce que cette situation au Proche-Orient aggrave le risque terroriste en France ? C'est une question importante. Je réponds pas à vos messages pour l'instant. On est dans le sommaire, donc on va pas lancer des débats dans le sommaire. C'est dans aucun sens. Attendons de lire les articles. C'est pas sympa pour ceux qui ont pas trop de temps, mais je vous lirai tout à l'heure. La France sur ses gardes. Un mois après l'attentat d'Arras, vous savez, ce professeur, hélas, qui a perdu la vie lors d'un attentat à Arras, cet enseignant. Soutien à tous les enseignants de France d'ailleurs. Les services de renseignement relèvent de nouvelles trajectoires de radicalisation parmi les très jeunes. La Croix qui se penche sur les profils de jeunes en France qui pourraient être, comment dire, tentés par le passage à l'acte terroriste. J'ai trouvé ce dossier assez intéressant, même s'il n'est pas très gai. Et puis, histoire quand même de vous parler d'autre chose. Je vous ai trouvé un papier dans Les Échos, qui est quand même à la une, sur le marché des voitures de luxe en plein boom. Vous allez me dire, hey Sam, ça va, il vous parle de Ferrari, de Maserati, Jaguar, non, moi ce qui m'a intéressé c'est les chiffres. Le marché mondial des voitures de luxe explose. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans ? J'ai pas envie de m'acheter une Ferrari, puis j'ai pas les moyens, et puis sans doute que vous non plus, ni l'envie ni les moyens. Non, ce qui est intéressant c'est ce que ça veut dire, en fait, du nombre grandissant d'ultra. Bah non, il n'y a pas Tesla. Bah non, hey, Saint-Loup qui a une Tesla dans le chat peut-être qui dit il n'y a pas Tesla. Non. Voiture de luxe, baby. Ferrari, Aston Martin, Maserati, Rolls. De luxe, chouchou. Tesla, c'est une belle voiture. Non, de luxe. Luxe, en fait, c'est à partir de 150 000 euros, je crois, la définition, dans le truc, là. Non, ça veut dire, nous explique Les Échos, oui, Lamborghini, Bugatti, voilà, qu'en fait, les ultra-riches sont de plus en plus nombreux dans le France, et de plus en plus nombreux, et ça s'accélère, quoi. Les gens qui ont vraiment de la thune, quoi. Voilà. Je crois que le critère, c'est à partir de 150 000 euros. Je crois, le critère. Ouais, c'est ça. Voilà. On lira ça. Donc, c'est pas tellement l'actualité de la bagnole qui m'intéresse, c'est le fait qu'il y a de plus en plus de gens qui sont en capacité de l'acheter, quoi. Voilà. Non, mais arrêtez les débats sur 200 000, 250 000. Non, ça, c'est un critère économique qui est retenu par Les Échos, en fait, et par les spécialistes de ce truc. Ils disent, bon, c'est un choix subjectif. Ils disent, à partir de 150 000 euros, on rentre sur une voiture de luxe. Voilà. T'as acheté une voiture à 140 999 euros, bah c'est pas une voiture de luxe. C'est une belle voiture. Hein. T'as acheté une voiture à 150 000 euros, 1 centime, t'as acheté une voiture de luxe. Quoi. C'est juste un critère comme ça. Quoi. Bon, je vous parlerai de ça pour parler d'autres choses. Ça m'a intéressé, ça. Oui, c'est ça, Aube, 140K, c'est pour les pauvres. Bah oui, bien sûr. Bah, évidemment que tout le monde peut mettre 140K dans une voiture. Moi, je trouve que les prix des voitures, c'est n'importe quoi. Le prix des voitures pas chères, c'est n'importe quoi. Mais la moindre voiture neuve, je trouve que c'est pas possible, quoi. Je trouve que la bagnole, c'est devenu trop cher. Voilà. Pardon d'être un vieux con, mais à mon époque, ça coûtait pas ça, les voitures. Alors, c'était pas pareil. Hein. C'est sûr, il n'y avait pas tout ce qu'il y a maintenant. Mais franchement, non, moi, j'ai acheté une voiture pas chère d'occasion. Eh ben, c'est trop cher. Eh ben, c'est encore trop cher. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas le prix des voitures, moi. Je ne comprends pas le prix des voitures. Ça n'est pas possible. Je vous parle pas des voitures de luxe. Je ne comprends pas. Ce n'est pas normal. La part que ça prend dans le budget d'un ménage, ça n'est pas possible. Enfin, je sais pas. Proposez-nous des bagnoles moins chères, quoi. Trop cher. United 118, merci pour le sub qui me permettra d'acheter donc une voiture de luxe. Pff, non. Veliwis, merci pour le 8e mois d'abonnement. Et je vous lirai aussi ça. Dossier passionnant dans le Figaro. Pour les jeunes parents, là, les parents d'ados, là, comment apprendre la frustration à vos ados ? Ouais. Il y a Blacky Lounours qui dit, on est très intéressé par l'article des oignons de pied juste en dessous. Non, je ne vous le lirai pas, celui-là. Dégueulasse. Ah, bah. Non. Vous êtes peut-être, vous qui me regardez ce matin, un ado. Dans ce cas, c'est une très mauvaise nouvelle. Ça veut dire que vous n'êtes pas à l'école. C'est pas bon ça. C'est-à-dire que vous avez fait l'école buissonnière, ça n'est pas bien. Vous êtes peut-être parent d'un ado. Voilà, vous connaissez peut-être des ados. Eh ben, c'est pas facile d'être un ado. Voilà, c'est pas facile. Les hormones, la puberté, la croissance, les questions, le sens de la vie, pourquoi j'ai des boutons sur la gueule, pourquoi elle ne me regarde pas l'autre là, alors qu'elle regarde tous les autres garçons, etc. etc. Voilà, les problèmes très importants. Eh ben, c'est compliqué. Et j'ai trouvé qu'il y a cet article dans le Figaro sur comment apprendre la frustration à vos ados. Et assez sympa sur comment accompagner l'ado, quoi. C'est assez mimi. Je vous lirai pas ça, hein. Comment soulager un oignon au pied, non, non, non. Oh là, non, 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 non. Non, 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 non. Voilà, puis on est tous passés par l'adolescence, rien n'a changé, me dit Joel Koenig, et je pense que ça va nous parler à tous ceux qui sont passés par l'adolescence, ça va vous rappeler des trucs. Voilà. Et vous allez comprendre pourquoi ça n'allait pas très très bien parfois, parfois dans votre tête, hein. Que vous étiez un petit peu en rébellion tout le temps à la maison, là, et que vous aviez des comportements un peu erratiques, un peu bizarres avec les gens dans la rue, là, et des looks. N'en parlons pas de vos looks, n'en parlons pas, n'en parlons pas. Ça tente des choses, ça essaye des choses. C'est plus ou moins réussi, maintenant on peut se le dire. On peut se le dire, c'était pas toujours très heureux, c'était pas toujours très élégant. Et puis il y a la question de l'hygiène, à un moment, il y a un relâchement au niveau de l'hygiène. Tous, à un moment, hein, tous. Il y a un moment, on décrète, je sais pas pourquoi, hein, on commence à affirmer son indépendance, et bizarrement, un des premiers trucs qu'on affirme, c'est, mais pourquoi une douche, finalement? Pourquoi une douche tous les jours, hein? C'est un des premiers signes de l'adolescence, ça. Alors, c'est quand le gamin commence à... Mais pourquoi? Malo, il a 7 ans, il me l'a fait, ça, ce week-end. Mais c'est nul! On n'est pas obligé de se laver tous les jours! Voilà, Malo, c'est déjà un ado, quoi, il a 7 ans. Voilà. Hein. Mais moi j'ai eu cette période là aussi, hein, quand j'avais, je sais pas, vers 12 ans là. À un moment j'ai dit à mes parents, mais pourquoi se laver tous les jours, hein, pourquoi dans ce cas là pourquoi avoir inventé le déo, hein? Je me rappelle avoir tenu ce discours là à mes parents quand j'étais jeune, hein. À quoi sert le déo si on est obligé de se laver tous les jours, hein? Voilà, bon, on lira ça et on rigolera, on finira avec ça, voilà. Donc oui, pas mal d'actu un peu tristoun, et puis des trucs un peu plus légers, et puis un petit horoscope à la fin. Ça, c'est dans le Figaro, page 16, mon ami, sur les ados. Ah, il y a quelqu'un qui est intéressé. Voilà. Il y a El Molusco qui est ado ou qui a des ados à la maison. Voilà. Mister Yugis, merci pour le 9e mon abonnement. Hein? Oui, Mister Yugis, et puis ça économise l'eau. Et ça économise l'eau. Merci Alexandra. C'est vrai qu'hier, j'étais sur France 5, c'était sympa aussi. Allez, je vous lis un petit peu, et puis on démarre cette revue de presse maintenant qu'on a fait. Le petit sommaire. Dès qu'on parle d'hygiène, hein, ça commente. Hein. Hein, ça parle de déo 24 heures, de déo 48 heures. Il y a Telouk sur le déo 72 heures. Attention, le déo 72 heures, c'est prouvé scientifiquement. À un moment, les bras, ils tombent. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne neutralise pas que les odeurs, ça neutralise les bras aussi. Hein. Mollo, les déos 72 heures. Puis le déo 72 heures, il c'est aussi prouvé scientifiquement, il te cache ton odeur à toi. Il cache pas ton odeur aux autres. Oh, il y a Manu qui dit, tu décris bien mon frère de 15 ans, ça, c'est mignon. Mais non, mais il y a Linette qui a peut-être un oignon qui m'engueule, qui me dit mais c'est pas dégueulasse un oignon, c'est pas très intéressant pour une revue de presse, ça n'a rien de dégueulasse, c'est un phénomène très courant, ça n'a rien à voir avec l'hygiène, me dit Linette qui a peut-être un oignon et qui est très très douloureux. Non, mais je parlais pas de l'oignon, je connais des gens très bien qui ont des oignons, moi j'ai pas d'oignon, mais des gens très bien qui ont des oignons, c'est juste que j'ai pas envie de parler de yep, enfin, j'ai pas envie de parler de pied, quoi, voilà, j'ai pas envie de parler de ça, non, c'est tout. Bon, je suis pas très très pied, moi, je sais qu'il y a des gens qui aiment les pieds, qui demandent des photos des gens qui ont des pieds. Mais voilà, c'est pas les oignons, c'est plus les pieds, j'ai pas trop envie de parler des pieds, quoi. Ça y est, j'ai dit le mot oignon, c'est parti, c'est le dit hier dans le chat. Bon. Adonis me dit, pour mon petit frère de 17 ans, ça n'est pas un relâchement dans l'hygiène, c'est carrément un abandon. Il y a El Molusco qui dit, on dit Alux Valgus. C'est pas un truc cochon, ça? Alux, c'est pas une position, ça, plutôt? Non? Non, je sais, ouais. C'est le nom scientifique. Il y a Saint-Loup qui dit beaucoup de femmes en ont. Quoi, des pieds? Bah oui, deux même, parfois. Ah non, des oignons? Ah, je sais pas, peut-être. Peut-être. Mais les femmes ont des pieds souvent, hein, moi j'ai remarqué. Je lis des messages sur l'hygiène, ça, je me régale. Un oignon, c'est un truc, une espèce d'excroissance sur le pied, ça fait mal, c'est douloureux. Je ne veux pas savoir ça. Il y a Eden Blaster, il y a Hugo qui me dit, il y a des gens qui vendent l'eau de leur bain aussi. Non, je ne veux pas en parler. Je ne veux rien savoir. Est-ce qu'on peut en faire des soupes de cet oignon-là, me dit Dr Strangelove. Non. Mais à mon avis, certains ont essayé. Mais non, hein. Artiste. Arinst. Comment je prononce ton pseudo déjà? Oui, je suis bien remis du coaching de moment. Arinstak. Merci en tout cas pour le 9e abonnement. Comment je prononce déjà? Comment ça, les gens qui vendent leur paix? Aristarque, merci. Aristarque, je n'étais pas très loin. Hein. Comment ça, il y a des gens qui vendent leur paix? Comment tu peux vendre un paix? Un paix, c'est éphémère. Un paix, ça passe. Un paix, ça glisse. Un paix, ça va, ça vient. Ça s'en va et ça revient. Ça s'en va et ça revient. C'est, comment tu peux vendre ça? Comment tu peux vendre un paix? Oui, j'ai fait top 1. On a fait top 1. Quand tu veux voir un paix en boîte, dans un bocal, comment ça? Mais c'est impossible. Merci Clamakine pour le gentil message, ça me crée tout. Alors, il y a des fétichistes des pieds, puis il y a des fétichistes des poils. Il hein. Y a Poly qui crame, je crois que c'est toi qui m'en as déjà parlé tout à l'heure, qui m'a demandé, quand il a vu ma photo de moi à 17 ans, en mode... pleine forme, si je m'épilais. Et là c'est peut-être c'est toi qui repose la question. Samuel, tu t'épiles. Ton pseudo, c'est Poil qui crame. Et tu me poses la question, Samuel, tu t'épiles. Il y a du fétichisme du poil dans ce chat, les gars. C'est fou, ça. Hein. Dans quel monde vivons-nous, quoi? Il est long, ce sommaire. Ursien, non, ça va, on est bien. On attend quand même la réponse. Non, je ne répondrai pas à cette question. Je ne répondrai pas à cette question sur l'épilation. Non, je ne vous montrerai pas mon corps. Mais là, merci pour le 15e mois d'abonnement. Bon, bah, on va lire cette revue de presse quand même. On y va. Let's go. On y va. Top, je regarde juste, c'est pas un petit mail urgent de taf là. Ah oui, ça... ah oui, si, il faut que je... Parce que parmi mes rendez-vous cet après-midi, je ne savais pas. Je ne savais pas si certains étaient en Teams, en visio ou en présentiel. Donc laissez-moi vérifier juste ma première réunion, elle est en Teams. Mais c'est les deux autres, après j'ai un doute. Il faut absolument que je vérifie ça. Vous regardez pas, hein? Vous regardez pas là, hein? C'est secret, hein? Ça arrête ça. Bon, personne ne me répond. Ils s'en foutent de moi. Attendez. Ah, c'est pour ça que ça marche pas. Voilà. Hop, ouais. Envoyer. J'ai pas encore ma réponse, ok. C'est ça que je veux. Ok, c'est bon. Bon, on y va. Go. Allez, c'est parti pour la revue de presse. On va commencer par cette manifestation. Ces manifestations hier contre l'antisémitisme en France. On y va ? Vous êtes prêts ? Plus de 180 000 personnes en France unies pour contre l'antisémitisme et pour la République, nous dit le Parisien ce matin, qui nous rappelle que les Français ont répondu hier massivement, estime le journal, massivement à l'appel des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, puisque c'est eux qui avaient lancé cet appel à marcher contre l'antisémitisme. Ça s'est passé à Paris et en région. Foule immense contre l'antisémitisme, et un édito à gauche ici signé Laurence Voyer qui écrit « Fallait-il aller à la marche pour la République et contre l'antisémitisme malgré la présence de l'extrême droite, du Rassemblement national ?» On va en parler ensemble ce matin. Dimanche dans la capitale et partout en France, plus de 180 000 personnes ont répondu un immense oui à cette question, bien loin de la triste polémique qui a agité la semaine dernière la classe politique. Vous étiez plusieurs pendant le sommaire à regretter hein, ces polémiques, sinon ces récupérations politiciennes de cette marche. Le Parisien a constaté que dans cette marche à Paris, il y avait au milieu du cortège, bras dessous, des figures de droite, Éric Ciotti, Laurent Wauquiez, François Baroin, frayant avec des sénateurs de gauche, Yannick Jadot, Rachid Temal, en l'absence de LFI, puisque vous savez que Jean-Luc Mélenchon notamment avait appelé à ne pas participer à cette marche, les trois autres partis de la NUPES sont arrivés ensemble, place des Invalides. C'est tant que ça, 180 000, demande Pitol 21. C'est une question que je me suis posée ce matin. J'ai pas la réponse. Les trois partis de gauche avaient prévu de manifester ensemble en laissant un cordon sanitaire avec le RN relégué en queue de peloton. On va en parler, ça, de l'extrême droite. Nous avons toujours été dans les marches contre l'antisémitisme. Il était donc logique que nous soyons là, même si nous sommes troublés par la présence du RN, on dit les partis de gauche. Dans la foule, une majorité d'adultes, hein, de couples, de personnes âgées, mais aussi quelques familles avec enfants ou adolescents. Il y a Diesel qui dit « Je trouve pas ça énorme, 180 000 pour toute la France, pour une marche aussi importante symboliquement. » Vous êtes plusieurs à le dire d'ailleurs. Merci Quick 222 pour le 17e mois d'abonnement. Merci du soutien. Je trouvais pas ça, en vrai, je trouve pas ça si important. Il y a quelques années de ça, on en avait parlé avec nos amis vendredi soir dans l'Hebdo Étienne. Il y a une manifestation en France pour dénoncer l'antisémitisme après les événements de Carpentras, quand un cimetière juif avait été c'était en 90. Voilà, là j'ai un article récent là, dans la dépêche du midi. C'était la profanation du cimetière juif de Carpentras. Il y avait eu des manifestations, il y a eu combien de personnes à l'époque? Il y avait François Mitterrand, le président de l'époque, qui avait manifesté. On l'a vu d'ailleurs dans les images de l'INA, puisque nous sommes partenaires de l'Institut National de l'Audiovisuel, l'Hebdo Étienne. Donc il y avait une journaliste, Laure, qui nous avait apporté ces images. Le président Mitterrand était descendu dans la rue, alors que le président Macron, vous le savez, n'est pas descendu dans la rue, on va en parler ce matin aussi. Combien il y avait de personnes dans cette manif? À Paris, plus de 200 000 personnes. Et plus des dizaines de défilés en province. Donc c'est plus, mais c'est pas finalement... Ben oui, je pensais que c'était beaucoup plus. On va aller voir ce que dit l'INA. Immense manifestation, dit l'INA. 90, je cherche les chiffres. Attends, je mets un petit suite. Ouais, c'est ça. Près de 200 000 personnes à Paris, plus des manifs en région. Bon, bah finalement, là on est à 200 000 à Paris. Hein. Pardon, là on est à 100 000 à Paris, 180 000 en tout. Donc effectivement, c'est moins que la manifestation de Carpentras, mais c'est pas beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Enfin, c'est moins, mais c'est pas... Voilà, ok. Après, je trouve pas ça énorme non plus. Merci Mathieu Jo pour ce soutien. Jérôme 78 et Anna Banana, je crois que je vous ai raté tous les deux. Hein. Merci pour le 13e mois respectivement et le 27e mois, c'est adorable. Je vous lis un petit peu sur les chiffres de la mobilisation. Alors moi j'ai lu la tribune du Figaro mais ça m'a échappé. Il y a Pantoufle qui dit « Trouve pas ça problématique pour un rassemblement d'avoir désigné l'islam dans la tribune du Figaro à l'appel de l'appel, à l'origine de l'appel ?» C'est effectivement dans le Figaro que le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée, Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet, ont publié cet appel. Je l'ai lu avec beaucoup d'attention, on en a parlé dans cette revue de presse. Et le moment où, comme tu le dis, ce texte, cette tribune désigne l'islam, m'a échappé. N'hésite pas à me coller dans le chat les mots, entre guillemets, la phrase dont tu parles, parce que là, ça m'a échappé par contre. Il faut que tu cites. Il faut que tu cites-moi la phrase et on en parlera ensemble, mais j'ai raté ou il faut qu'on en parle. Ça m'a échappé, ça. Vas-y, copie-colle, enfin, et puis on en parle. Voilà. Foule immense la blague, dit GTO. Ouais. C'est pas anecdotique, c'est beaucoup. Est-ce que c'est une foule immense? Je sais pas. Pas sûr, effectivement, pas sûr, pas sûr. Pas sûr. Si quelqu'un voit la citation dans la tribune publiée dans le Figaro, donnée par Pantoufle. Ah ben non, mon Pantoufle. Ah ben heureusement que je te demande de citer. Tu dis que... Non, c'est pas la peine d'épingler Julot, je l'ai vu. Et puis en plus, c'est une erreur de Pantoufle. Donc Pantoufle nous disait dans le chat, vous voyez, c'est pour ça que c'est important de citer. Est-ce que c'est normal que la tribune ciblait l'islam? Et tu viens de mettre la phrase. Notre laïcité est menacée et le rempart contre l'islamisme. Ne me dis pas que tu confonds islam et islamisme. La vache. J'espère que pour toi, les deux mots ne sont pas synonymes quand même. Voilà. Donc là, tu vois, tout de suite, en citant, on part sur autre chose. J'espère que tu connais la différence entre les deux quand même. Non, je pense qu'il connaît la différence. Je pense. Mais bon, du coup, bah voilà, c'est bon. Bah on sait donc que la tribune ne désignait pas l'islam, comme tu le disais. C'est pour ça qu'il faut toujours retourner à la source. Merci beaucoup. On peut passer à la suite. La suite étant quand même l'absence du président Macron. Une absence remarquée. Une absence qui n'est pas passée inaperçue. Ce dimanche, le chef de l'État n'a pas défilé contre l'antisémitisme. Alors que François Mitterrand, on l'a vu, hein, je vous l'ai dit. Avait participé à la manifestation lors de la profanation du cimetière juif de Carpentras en 1990. Ce dimanche, le chef de l'État n'a pas défilé contre l'antisémitisme aux grandes dames d'organisations comme la LICRA, par exemple, ou le CRIF. Présent par le cœur et la pensée, le président Macron a tenu à marquer son rejet de l'antisémitisme. Autrement, nous dit le Parisien, dans une lettre aux Français qui a été publiée par ce journal, d'ailleurs, dimanche. Il dit voir dans ses marches un motif d'espérance, une démonstration de soutien à la défense de l'universalisme. Voilà. D'ailleurs, je crois qu'un peu plus loin... J'ai plusieurs articles qui regrettent ça, on en parlera. Plusieurs articles qui regrettent, en fait, la non-participation du président Macron à cette manifestation. Pour quels arguments? Pourquoi ça se déconnecte? Bon, on verra ça tout à l'heure, on verra ça tout à l'heure. Mathieu Jo, merci pour le soutien, merci pour le soutien. Je vous lis un petit peu, et puis un petit éclairage là sur la participation de l'extrême droite à cette manif, qui a provoqué beaucoup de réactions. Je vous lis un petit peu parce que j'aime vous lire et puis j'enchaîne. Alors, l'extrême droite, donc, dans cette marche, malgré tout, le RN a participé à la marche. Il s'était donné rendez-vous au boulevard de la Tour Maubourg, dans le 7e, très en retrait du début du cortège. On parle des élus d'extrême droite. Une soixantaine de députés sont présents, bientôt rejoints par Marine Le Pen, Jordan Bardella. On parle des députés, bien sûr, du RN, puisque Éric Zemmour a échoué à faire élire ne serait-ce qu'un député à l'Assemblée. Nous sommes exactement là où nous devons être, avait déclaré Marine Le Pen au début de la manif, dénonçant la petite politique politicienne de ceux qui estimaient que sa place n'était pas loin. Pas là, pardon. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, avait estimé dans Le Parisien que le RN voulait là solder une partie de son histoire et qu'il n'était pas le bienvenu. Dans le JDD, Nicolas Sarkozy avait lui déclaré au contraire qu'il fallait se féliciter que le RN, le Rassemblement National, se libère de l'antisémitisme. Donc c'est un débat intéressant, je ne sais pas s'il est évoqué plus loin. Est-ce que... Bon, ça c'est une grande question qu'on a beaucoup évoquée avec Clément Viktorovitch vendredi soir dans l'hebdo Étienne. Est-ce que le RN a changé? Est-ce que le RN est encore l'ancien FN? Est-ce que le RN aujourd'hui est antisémite comme le FN a pu l'être? Voilà, ça c'est le grand débat. Moi, je n'ai pas la réponse à cette question. J'entends des réponses à cette question. Il y a des électeurs du RN aujourd'hui qui disent « Mais moi, je vote le RN parce que le RN, ça n'est plus le FN. Ça n'est plus un parti raciste, ça n'est plus un parti antisémite. » Ça, ce sont des propos qui sont tenus souvent par des partisans, sinon des électeurs du RN, voilà, et qui disent que Marine Le Pen n'est pas antisémite, ni raciste. Donc ça, c'est une analyse. D'autres... Comme Clément Viktorovitch, par exemple, vendredi soir, le politologue, qui nous expliquait que quand on se penche sur un parti, il faut prendre en compte son histoire, et que ce parti, hein, le FN, a été créé notamment par d'anciens nazis, hein, d'anciens Waffen-SS. Voilà. Et donc ça, c'est la création du parti. Et puis l'histoire du parti, l'histoire du FN et du RN est quand même émaillée, marquée par de régulières condamnations judiciaires pour des faits de racisme et d'antisémitisme. Voilà, ça, c'est l'histoire du parti. C'est une autre analyse donc ceux qui sont les porteurs de cette analyse leur font dire que le RN d'aujourd'hui est toujours un parti d'extrême droite. Et puis après, il y a des gens qui empruntent à ces deux analyses pour dire que Marine Le Pen aujourd'hui n'est peut-être pas raciste, n'est peut-être pas antisémite, mais que certains élus de ce parti, et ça peut se vérifier effectivement par des condamnations et par des propos tenus, le sont encore. Hein, hein. Donc, et que les simples propos, positions publiques de Marine Le Pen ne suffisent pas à définir ce parti, quoi. L'Oxane 75 écrit « Attention Sam, le PS n'a pas une belle histoire non plus comme tous les partis. Mon ami, si tu peux me citer dans le chat ici des condamnations d'élus du PS pour des faits de racisme et d'antisémitisme comme le RN et le FN l'ont eu, j'attends avec impatience toutes les infos. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. » Allez, je vous lis un petit peu. Alors, j'aime bien la petite blague d'Olympe. J'ai remis une couche de peinture sur mon mur, du coup il n'y a plus d'amiante. Je pense que vous comprenez la vanne. Ah, est-ce que cette dédiabolisation voulue par Marine Le Pen du RN est un truc de fond réel, voilà, pour faire du RN un parti qui ne serait plus d'extrême droite, ou est-ce que c'est de la cosmétique, du ripollinage, du marouflage, dirait mon ami Valérie D'Amido. Voilà, c'est le débat. En mon fort intérieur, il est tranché, vous connaissez ma position là-dessus. Après, vous avez le droit de vous faire, vous, votre opinion par rapport à tous ces éléments-là, quoi. Je voulais encore un petit peu, puis on avance et on lit le dossier de Libé, qui va réévoquer tout ça d'ailleurs. Allez, on les libère. Un sursaut national, ça c'est la Une de la Libération. Vous comprenez que Libé se félicite également de cette mobilisation, de ces manifestations d'hier à Paris et dans plusieurs régions contre l'antisémitisme. Édito de Dovalfon qui écrit, c'est mon sentiment, de bons éditos. Y aller, ne pas y aller. Lancer maladroitement, l'initiative des présidences de l'Assemblée nationale et du Sénat de convoquer le pays à une grande marche contre l'antisémitisme paraissait pour le moins risqué. Cette maladresse de cette tribune, on en parlait d'ailleurs vendredi soir dans l'hebdo Étienne. Non pas que cette tribune, comme quelqu'un dans le chat tout à l'heure disait, ciblait l'islam, puisque c'est faux, ciblait l'islamisme, ce qui n'a absolument rien à voir, ce sont deux choses très très différentes, mais effectivement, pour d'autres raisons, effectivement, cette tribune était maladroite. En cause, la présence des deux extrêmes droites, mais aussi un timing hasardeux. Tiens, voilà, la maladresse, elle est aussi notamment au niveau du timing. En ce dimanche de pluie, à la fois trop distant des massacres du 7 octobre et trop proche des représailles meurtrières israéliennes. Et pourtant, les Français ont répondu à l'appel en masse dans un sursaut national à la hauteur de l'enjeu. Personnellement, je trouve que cette tribune était nécessaire, que cette manifestation était nécessaire, mais que cette tribune, effectivement, était maladroite et qu'il y avait quelques mots en trop et qu'il y avait des mots en moins, des mots qui manquaient également. Mais bon, tant pis. D'autres rassemblements ont pris place dans plusieurs grandes villes en France, comme à Strasbourg, à Dijon, à Marseille, Montpellier ou encore Perpignan. De nombreuses figures politiques étaient présentes à Paris, dont la première ministre Elisabeth Borne, les présidents des deux chambres, les anciens chefs de l'État Nicolas Sarkozy et François Hollande, des ministres et des parlementaires de tous bords, à l'exception donc de la France insoumise, dont le leader honoraire Jean-Luc Mélenchon appelait à boycotter l'événement, écrit Libération, dans des termes nauséabond et redoutable. La seule personnalité politique de haut rang à l'entendre fut bizarrement le président de la République. Alors ça c'est très intéressant, je m'arrête un petit peu sur ce passage. Libé est très critique par rapport à la décision du président Macron de ne pas participer à la manif. Donc Jean-Luc Mélenchon a appelé à boycotter l'événement, selon Libé, dans des termes nauséabonds et redoutables. La seule personnalité politique, selon Libé, à avoir entendu cet appel au boycott, c'est le président Macron, qui aurait pressenti, selon Libé, que la marche allait être un échec retentissant, car l'antisémitisme n'intéressait pas les Français. Encore une volte-face ratée, celle-ci plutôt, d'ailleurs, petite coquille là, laissera des traces. Pour Libération, le président Macron aurait dû participer à cette manifestation. C'est aussi la Une du Figaro ce matin, vous voyez, la France qui dit non. Et on va lire maintenant le dossier de l'Humanité là-dessus. L'intérêt sur un événement comme ça, c'est de multiplier les regards. Chaque journal a son analyse, des analyses différentes, des sensibilités différentes, conservatrices, libérales, de droite, de gauche. C'est intéressant de regarder aussi le regard de l'Humanité sur cette marche et sur ce qui se passe au Proche-Orient. Elvalu33, merci pour le 4e mois d'abonnement. Camille Ed pour le 24e mois d'abonnement. Et le gentil message, je vous lis un petit peu avant de passer à l'humain. Alors, notre ami Pantoufle est resté sur son truc de tout à l'heure. Bon, pour ceux qui ont raté l'épisode, Pantoufle, qui est quelqu'un que j'aime bien, qui est un habitué de la chaîne, qui est streamer aussi, écrit « Mais est-ce que tu trouves normal que la tribune dans le Figaro désigne l'islam ?» Bon, je savais que ce n'était pas le cas, donc je lui demande de citer. Il me dit « Ah ben non, c'est l'islamisme. » Je lui dis que ça n'est pas la même chose. Et puis un peu plus tard, je te lis, hein, mais je ne réponds pas à toutes tes remarques parce que ça n'est pas... Ce stream n'est pas un débat entre Pantoufle et Samuel Etienne, c'est un débat entre Samuel Etienne et vous êtes 2500 personnes, donc on peut pas instaurer un dialogue comme ça parce que c'est excluant et pas forcément très intéressant. À un moment, tu dis par exemple, l'islamisme, ce n'est que la transcription politique de l'islam, je vois pas en quoi c'est gênant et condamnable. Ben si, en fait. Totalement, bien sûr. Une religion, c'est un fait privé, c'est une conviction personnelle, c'est un rapport entre soi et Dieu, c'est un rapport entre soi et Dieu, voilà. En aucun cas, ça doit devenir un projet politique. Hein? Voilà. Et alors Pantoufle me dit, mais je n'ai pas dit ça, parce que le dialogue continue, il dit, je te cite, 10h17, Samuel Etienne, l'islamisme, tu peux m'appeler Samuel, hein, ça ira bien, doctrine prenant l'islam comme une idéologie politique ne menace pas la France, non, comme dit dans le texte, le terrorisme, oui, par contre. Bien sûr qu'en fait, toute religion qui devient, donc je te cite, hein, une doctrine prenant l'islam comme une idéologie politique ne menace pas la France, bien sûr que si. Toute religion voulant devenir un projet politique devient une menace. Évidemment que oui. La religion, c'est un fait personnel, c'est un fait privé. Voilà. C'est une relation, une histoire entre soi et Dieu. Et moi, je ne suis pas, à titre personnel, je ne suis pas croyant, je suis agnostique. Mais je respecte la foi, quelle qu'elle soit, d'ailleurs, mais en son fort intérieur. Et toute religion qui souhaite devenir un projet politique, eh bien, c'est un grand danger pour la société et pour tous les membres d'une société donnée qui ne veulent pas être ne veulent pas s'inscrire dans ce projet politique, voilà. parce qu'on est au-delà du projet de société, hein. Parce que justement la foi, c'est la croyance qui est pas rationnelle, c'est la foi envers et contre tout, en quelque chose, en un dieu, entre voilà, on ne fait pas appel à la raison. Quand on mélange la raison, voilà, le projet politique qui doit s'appuyer sur la raison, sur le vivre ensemble, et la foi qui repose sur autre chose, et tout sauf la raison, c'est extrêmement dangereux. Donc on n'est pas d'accord du tout. Donc tu peux prendre le truc dans tous les sens. T'as commencé par dire une petite bêtise, je t'ai corrigé, maintenant on va passer à autre chose, quoi. Mais si tu veux nous faire croire que l'islamisme n'est pas un danger, je ne peux pas te laisser dire ça, donc je le dis. Si tu n'es pas d'accord, bah tu en fais des streams et tu en parles, voilà, et puis et c'est très très bien, mais on va pas avoir un débat ensemble ici. Ça le fait, ça va. C'est un dialogue de sourds. Pantoufle, il dit, mais les musulmans respectent la République. Tu confonds encore l'islam et l'islamisme. L'islam, les musulmans, qui respectent effectivement dans leur immense majorité la République. Et l'islamisme, qui est un projet politique qui nie justement la République, puisque l'islam, c'est... Mais c'est fou, ça. En fait, tu ne connais pas du tout le sujet, en fait. C'est incroyable. C'est étonnant. Waouh! C'est dingue. Bon, on va lire l'humanité maintenant. Waouh. Waouh. Ah ouais, c'est un sujet important. Faut. Ok. Waouh. Ok. Wow. Allez, l'humanité, une marche entachée. Par la présence de l'extrême droite, l'humain est un peu en colère. Mobilisation souillée par la présence scandaleuse, dit l'humanité, de l'extrême droite, étape décisive dans sa prétendue normalisation, édito de Maude Verniolle. Présence obscène, dit même l'humanité à propos de cette présence de l'extrême droite. Il fallait avoir le cœur bien accroché, des dirigeants du RN ont donc marché tête haute dans une manifestation contre l'antisémitisme. Voilà, ça s'est passé en France, c'était hier. Qu'est-il arrivé à notre pays pour qu'Éric Zemmour, qui a affirmé que Pétain avait sauvé les Juifs, ce qui est une contre-vérité, vérité historique évidente, se sente autorisé dans notre pays à défiler tranquillement. Ce 12 novembre marquera une étape décisive de la normalisation de l'extrême droite, pour l'UMA, peut-être, d'ailleurs. Qui peut croire que le parti de Marine Le Pen, fondé par des anciens SS, ce qui est aussi une vérité, un fait historique, et dont l'ex-président, donc on parle de Jean-Marie Le Pen, avait été condamné à plusieurs reprises, Clément Viktorovitch nous rappelait vendredi soir, à 6 reprises six reprises au total pour des propos racistes ou antisémites, et à plusieurs reprises spécifiquement pour avoir qualifié les chambres à gaz de détails de l'histoire. Bien sûr que les chambres à gaz ne sont pas un détail de l'histoire, mais Jean-Marie Le Pen l'avait affirmé à plusieurs reprises. Le jeune président du RN, Jordan Bardella. Merde, j'ai ban quelqu'un ? Merde, j'ai ban qui ? J'ai fait un misclic sur un message. J'ai ban qui ? Qui j'ai ban ? Parfois, je misclic. Pantoufle ? Non, j'étais parce que je suis dans l'histoire. Oh, merde, j'étais dans l'historique de Pantoufle et j'ai dû misclic. Désolé. J'ai pris un petit Théo, pas de souci. Oh, merde. Non, tu n'as rien fait, c'est VOD Samuel. Ah, c'est un modo. Mais c'est un misclic, me dit-on. Ouh, j'ai eu peur, c'était pas moi. Ok, d'accord. Ah bah non. Moi, je vais me discuter avec les gens qui sont pas d'accord avec moi. Hein. Tant que, et c'était le cas de l'ami Pantoufle ici, les propos sont corrects, respectueux et respectent la loi de la République, les gens ici, y compris, notamment les gens qui sont pas d'accord avec moi, sont plus que bienvenus. VOD Samuel, je suis allé check sa chaîne et j'ai misclick my bad. Bon, pas de souci, ça arrive au meilleur. Moi, je suis le roi du misclick. Mais tant que les propos tenus sont corrects, respectueux, pas discriminants, respectueux notamment vis-à-vis des autres viewers, ici, on a le droit de s'exprimer dans le cadre des lois de la République, bien sûr. Donc, pardon pour ce misclick de notre part. Donc, je reviens aux propos du président du RN, Jordan Bardella, qui a déclaré récemment, malgré la triste évidence, « Je ne crois pas que Jean-Marie Le Pen était antisémite ». Voilà. Et ça, effectivement, c'est une contre-vérité, vérité historique. Voilà. Voilà pour ces nombreux articles consacrés ce matin à cette marche contre l'antisémitisme. On y reviendra peut-être dans les prochains jours. Évidemment, tout ça est lié à l'actualité au Proche-Orient. Et on va en parler maintenant. Plusieurs articles. Je vous ai mis un article du Monde, un article de l'Opinion, un article de l'Humanité sur ce qui se passe au Proche-Orient, et puis un dossier dans la Croix sur le risque terroriste en France. Pourquoi plusieurs articles ? Parce que là aussi, il faut multiplier les regards. Parce que tous les... Putain, j'ai froid. Tous les journaux n'ont pas le même regard sur ce conflit, et c'est important de se pencher sur les différentes analyses pour que vous puissiez vous faire votre opinion à vous, bien sûr. Kinema Live, merci pour le 3e mois d'abonnement. AG Killer, merci pour le 11e mois d'abonnement. Elvalu 33, merci pour le 4e mois d'abonnement. Camillette, encore merci. Et Cobra, à l'instant, merci pour le soutien. Ouais. Je vous lis et on part sur le Proche-Orient. Merci Laurie Marin, c'est adoré. Merci pour le 3e mois. Hein ? Plus je me réchauffe avec un sweat qui est trempé de pluie. C'est chaud ça, tu as tellement raison, il y a Jukebox qui écrit dans le chat. Salut Sam, je suis choqué honnêtement que ce soit du côté Israël ou Palestine, je connais des amis qui défendent leur raisonnement comme s'ils avaient la vérité, qui est plus complexe que ça bien sûr. Nous le constatons au quotidien effectivement, sur ce conflit au Proche-Orient. C'est une guerre de haine, j'aimerais bien que les gens le comprennent, mais je sens mon entourage déchiré. Que penses-tu de ce déchirement dont le monde entier est concerné ? On a parlé pendant des heures ici de ça. De gens persuadés qu'il y a le camp du bien et le camp du mal. Voilà. Et les deux camps le pensant. Voilà. Moi, j'ai eu la chance, dans ma jeunesse de journaliste, d'aller sur place, en Israël et dans les territoires, pour aller voir de mes yeux, à moi, vu la situation, à l'époque où c'était très tendu, où il y avait beaucoup d'attentats en Israël, et que déjà... dans les territoires palestiniens, les conditions de vie étaient extrêmement difficiles. Et je me suis rendu, et c'est en allant sur place et en écoutant les Israéliens, les jeunes Israéliens et les Palestiniens, les jeunes Palestiniens, que j'ai compris à quel point le sujet était bien plus complexe que certains le croyaient. Et qu'il y avait des partisans de la paix dans les deux camps, des gens qui voulaient vraiment vivre ensemble dans les deux camps, et à l'inverse, des gens qui ne voulaient pas de cette paix, qui ne voulaient pas vivre ensemble. Et ces dernières années, ce sont ces gens-là qui ont gagné, voilà, les extrémistes des deux camps, et qui ont fait qu'on en est arrivé là. Voilà. Donc ça, c'est ma conviction personnelle. Mais effectivement, les gens qui affirment que le camp du mal, c'est l'autre, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le Rémarin, merci pour les bits. Lisons les derniers articles sur la guerre au Proche-Orient, sachant qu'on en lit tous les jours, maintenant, depuis les attentats du Hamas. Les hôpitaux de Gaza... au cœur du combat, donc ça c'est le, Ça, c'est l'article dans Les Échos. L'armée israélienne affirme vouloir débusquer le Hamas dans des nombreux tunnels de Gaza, ça vous le savez. Mais les organisations humanitaires, elles s'alarment de la situation dans les hôpitaux à proximité des combats. Sur le terrain, les hôpitaux de Gaza, notamment celui d'Al-Shifa, étaient hier dimanche au cœur des combats et de la tension internationale, plus de deux semaines après le début de l'invasion de l'enclave palestinienne par Israël. L'armée israélienne affirme que le Hamas, responsable de l'attaque du 7 octobre dernier, lors duquel 1100 civils israéliens ont été tués de sang-froid, y cache un QG militaire en sous-sol, donc sous-sol de cet hôpital. L'obsession des militaires israéliens, vous le savez aujourd'hui, est de détruire les abris souterrains et les tunnels du Hamas grâce à un pilonnage aérien intensif et aux opérations menées par les unités spécialisées. 150 tunnels à ce jour utilisés pour stocker des armes, des vivres des combattants du Hamas où des otages ont été neutralisés ou colmatés ces derniers jours. Vous remarquez que la question des otages semble passer quand même au second plan bien après la destruction de ces tunnels. Je pense que vous le savez. Mais les combats et les pénuries d'eau, médicaments, électricité alarment les ONG et les organisations humanitaires internationales dans cette enclave palestinienne qui est pilonnée sans relâche depuis un mois. Partout dans le monde, les images de Gazaouis tués ou blessés par des tirs israéliens alimentent une émotion considérable, illustrée par plusieurs manifestations ce week-end. À Londres, vous avez une manifestation de 300 000 personnes ce week-end, c'était samedi je crois, en soutien aux Palestiniens de Gaza. Voilà pour le point des Échos sur, d'un côté, l'armée israélienne qui affirme que les combattants du Hamas se cachent parmi la population civile et notamment sous les hôpitaux, et puis les frappes de l'armée israélienne qui tuent, vous savez, énormément de civils palestiniens. On va lire maintenant le point de l'opinion et après on ira voir l'humanité, un autre regard encore. Maquisard, merci pour le soutien. Je vous lis. Teva Patti, je n'ai rien sur le Darfour, sur le Soudan, mais si je trouve un article, du coup, tu viens de m'allumer une petite alerte dans la tête, je te le mettrai de côté. Merci. Oh, merci Sir Junkie. Merci pour cette deuxième année. Merci pour ce soutien. J'en doute, écrit Netanyahou, est quand même objectivement un méchant bonhomme. Moi, je ne dis pas. Je viens de parler des extrémistes des deux camps. Nous avons un gouvernement en Israël aujourd'hui qui est objectivement un gouvernement, quand on regarde l'histoire politique de l'État d'Israël, qui est un gouvernement d'extrême droite. Donc, et quand je vous dis que ce sont les extrémistes des deux camps, les opposants au processus de paix israélo-palestinien qui ont gagné ces dernières années, ça veut bien dire que les gens qui sont aux manettes aujourd'hui, que ce soit le Hamas dans la bande de Gaza ou que ce soit Netanyahou en Israël, effectivement, sont des représentants de ces deux camps qui ne veulent pas la paix, qui n'ont jamais voulu la paix en fait. Vous savez que Netanyahou, il l'a dit publiquement devant des militants du Likoud, hein, son parti, Netanyahou a favorisé le Hamas, a soutenu le Hamas aux dépens de l'autorité palestinienne en sachant que ça allait totalement détruire le processus de paix israélo-palestinien et mettre fin à l'espoir de la solution à deux États quoi. Voilà. Donc évidemment, Netanyahou fait partie du problème, pas de la solution. Ça va sans dire, c'est évident quoi. Mais à côté de ces gens-là, il y a des Israéliens et il y a des Arabes et des Palestiniens qui, eux, ont œuvré pour la paix aussi. Mais ils ont perdu. À ce jour, ils ont perdu. Ouais. Ah ouais, j'ai pas lu Le Monde. Merci Teva Piti, je suis en retard sur Le Monde. J'irai m'enseigner sur le Darfour. Et je vais rattraper mon retard sur Le Monde. I am Sean Red, merci beaucoup pour ce très joli raid. Merci à toi, merci du soutien. Très belle chaîne que je vous invite à aller voir d'ailleurs. I am Sean Red. Je vous lis en même temps.
Hop, ça va. Sans chaussettes, ouais. Donc non, franchement, c'était vraiment un...
Excusez-moi, hop. Tchouk, voici la chaîne, hop, Daniel Sean Red, Actu de la Tech, lundi, vendredi, à partir de 6h30, c'est ce qu'on appelle un lefto, dans la tech, dans le cul, j'adore. Putain, numéro 474, je vois. Waouh. On discute, on fait le tour de toute l'actualité tech, geek, morning vibe. Je suis aussi dev et ex-formateur dev. Super. Et je te suis, bien sûr. Merci en tout cas du raid, c'est adorable. Hop. Hop. Oui, c'était Martin Martin. Oui, effectivement, MMG, tu as raison. Mais c'est parmi c'est les chaînes que parmi les chaînes que I Am Sean Red recommande d'ailleurs. Mais c'est bien l'ami Martin Martin, notre DJ préféré que tu as entendu à l'instant. Je suis en train de vous lire. Vous avez le dans le chat, les modos ont mis la chaîne de I Am Sean Red qui nous arrête un instant. Bien sûr. Edith nous rappelle qu'il ne faut pas assimiler l'État d'Israël et l'opinion des Juifs d'Israël. Ouais. De même qu'il ne faut pas assimiler le Hamas et les Palestiniens. C'est la même chose. On est d'accord. Le regard de l'opinion maintenant, le journal qui s'appelle L'Opinion sur ce qui se passe actuellement. L'armée israélienne, avec d'autres infos qui vont nous permettre de nous éclairer un peu là-dessus. Il y a l'ami Ayam Chonouet qui nous parle de son stream de ce matin avec un débat sur la disparition des métiers du graphisme face à l'IA. Super intéressant. Tu m'étonnes, c'est un sujet vachement intéressant. L'armée israélienne qui assiège le cœur supposé du dispositif de l'organisation islamiste. Donc, on va reparler de cet hôpital, bien sûr, on va reparler de ces tunnels. Il y a Guy Kassak qui pose à l'instant cette question intéressante. Est-ce qu'il y a des preuves formelles que le Hamas construit ces tunnels sous les hôpitaux et autres lieux de sécurité de la bande de Gaza? Ben, le problème, c'est que je ne crois pas qu'on ait à ce jour-là de preuves objectives formelles d'une source indépendante qu'il y a des tunnels sous les hôpitaux de la bande de Gaza servant au Hamas. C'est ce qu'affirme l'armée israélienne et le Hamas dément, bien sûr. Je ne crois pas qu'on ait d'infos indépendante le confirmant. Mais c'est une vraie bonne question. C'est comme sur les bilans des frappes de l'armée israélienne. Vous avez un bilan qui est celui des autorités du Hamas dans la bande de Gaza, confirmé pour partie par des organisations des ONG, et Israël dément et affirme que c'est moins que ça, quoi. Merci beaucoup Solé pour le 20e mois d'abonnement. On ne peut pas écarter le scénario d'un effondrement assez rapide du Hamas. Avançait vendredi à Paris une source proche du dossier. En effet, l'offensive terrestre israélienne se développe méthodiquement autour de la ville, bastion du Hamas, donc on parle de la ville de Gaza cette fois, alors que les frappes aériennes et d'artillerie se poursuivent massives. Vendredi, après 35 jours de guerre, l'armée israélienne faisait état de 15 000 cibles visées depuis les attentats du Hamas, 430 par jour, je ne sais pas si vous vous rendez compte, une telle intensité, écrit l'opinion, couplée à la précision des tirs. J'aimerais qu'on enlève ces mots de cet article. Ça veut dire que toutes les victimes civiles étaient visées aussi? Non. Enlevons ce terme. Ces tirs sont précis comme moi je suis le pape. Sinon, il n'y aurait pas ces milliers d'hommes, de femmes et d'enfants civils palestiniens tués, quoi. Une telle intensité, je vais enlever le précision des tirs là, sur un aussi petit espace affaiblit considérablement les capacités militaires du Hamas. Ce que nous dit l'opinion en tout cas, c'est que le Hamas prend cher en ce moment. C'est dans ce secteur autour de l'hôpital Al-Shifa et du camp d'Al-Shati, le camp de réfugiés, que se déroulent la plupart des combats au sol actuellement. Selon le renseignement israélien, il s'agirait du cœur des infrastructures souterraines du Hamas. Donc quelqu'un me disait, est-ce qu'on a des infos indépendantes qui nous confirment qu'il y a des tunnels du Hamas sous ces hôpitaux? Ben, c'est ce que nous dit le renseignement israélien, et tu es d'accord avec moi, ça n'est pas une source indépendante. Donc peut-être que ces tunnels sont là, peut-être que c'est faux. Israël affirme que oui, Gaza que non, le Hamas que non. Les combattants islamistes semblent pris au piège de leur réseau de tunnels. Celui-ci est systématiquement détruit par Tsahal depuis l'extérieur. Il ne semble pas que les unités spéciales israéliennes s'y aventurent. Il n'y aurait que des bombardements. En matière de droits humains, l'hôpital Al-Shifa pose un problème juridique particulier. S'il est avéré qu'il est utilisé par le Hamas, regardez comment l'opinion est prudent. S'il est avéré qu'il est utilisé par le Hamas, l'opinion n'affirme pas que ces tunnels existent. S'il est avéré qu'il est utilisé par le Hamas pour dissimuler des installations des combattants, Les conventions de Genève stipulent en effet que les hôpitaux doivent être épargnés par les belligérants, mais selon l'article 19, cette protection pourrait cesser s'il en est fait usage pour commettre des actes nuisibles à l'ennemi. Fin de l'article. Il est probable qu'une fois que Tsahal aura remporté cette bataille dans le nord de la bande de Gaza, donc l'opinion pense que l'armée israélienne va gagner cette bataille, cette guerre, il est probable que les États-Unis sifflent alors la fin de la partie et imposent un cessez-le-feu aux Israéliens. Restera alors à régler la question politique du jour d'après, et on en est loin. Il n'est pas impossible que l'armée israélienne gagne cette bataille, cette guerre. Voilà. Et après ? Et après ? Et après, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, c'est la question. Qu'est-ce qu'on fait après ? Comment ? Qu'est-ce qu'on met en place pour que tout ceci n'arrive plus, quoi ? Comment on... Parce que c'est quand même ce qui doit être réussi à terme. Comment on installe la paix, la coexistence pacifique entre les communautés, entre les Arabes, les Israéliens, les Palestiniens. Voilà. Ça, ce sera de la responsabilité de toutes les parties et de la communauté internationale de faire le job, ce job qui n'a pas été fait à ce jour suffisamment depuis la création de l'État hébreu. Je vous lis un petit peu et on enchaîne. C'est pas grave. Il y a Captain Mabernick qui s'est mis en colère contre les barbus, ont zéro personnalité dans le chat parce que notre ami a affirmé que j'étais le roi du en même temps comme son maître. Je serais donc un suppôt du président Macron. Écoute, libre à toi de le penser, ça n'est pas une insulte en soi. Voilà, tes mots sont maîtrisés. Voilà, c'est pas très. Très sympathique pour ma pomme, mais de me rattacher à un parti ou à un élu en particulier, mais en soi, t'as le droit de l'affirmer, même si c'est faux, peu importe. Le chat est open, du moment que tu t'exprimes correctement, c'est pas un souci pour moi. Donc les modos, laissons notre ami tranquille. Alors, bon, moi j'ai une philosophie assez souple de la modération, vous le savez, j'aime discuter avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, là j'ai un message de le tosser qui a été supprimé, je n'ai pas trouvé ce message qui sort, je ne trouve pas que ce message sortait des clous de notre philosophie de modération, voilà. C'est un regard, c'est une opinion, ce sont des faits. Avéré ou pas, je sais pas, mais en tout cas, c'est correctement exprimé. Bon, pas choqué, quoi. Compliqué, hein. Moi, je me mets à la place des modos. Franchement, vous faites un boulot remarquable, hein. Sur les sujets que j'évoque. Je vous gâte pas, quoi. Hein, c'est de savoir ce qu'on laisse passer, pas laisser passer. Voilà. Donc, un grand merci, un grand hommage à vous, Clamakin, Captain McBernick, French Yu-Gi-Oh, Julo18, MMG7F, Sarah Molly. Qui nous a rejoint il y a peu, Takayov, l'ami Mathieu, VOD Samuel, qui gère la chaîne YouTube, voilà, qui nous régale d'ailleurs, de plus en plus de gens qui regardent les streams en replay sur YouTube, et l'ami Nightbot, bien sûr, merci à tous, voilà, d'être aussi nombreux ce matin, j'avais pas vu que vous étiez aussi nombreux. Ivory62, merci beaucoup pour le 26e mois, Solvant pour le 4e mois, vous êtes formidable. Je vous lis encore un peu parce que c'est mon régal, et puis on enchaîne avec le regard de l'humanité sur ce qui se passe actuellement dans la bande de Gaza. Je vous lis, mais il y a plein de messages, alors je prends le temps, hein. Bien sûr, oui. Oui, professeur Wanabi, je crois un regard juste sur le Hamas. Le Hamas ne veut pas un État palestinien. C'est un groupe religieux qui veut le califat. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'Israël a soutenu le Hamas contre le Fatah. Le Fatah, pas le Fatah, hein, il y a un S en trop. Contre le Fatah, pour ne pas avoir d'État palestinien. C'est juste. Alors après, je mets un tout petit bémol dans ta phrase. C'est pour cette raison qu'Israël a soutenu le Hamas. Certains gouvernements israéliens, là, ne confondons pas l'actuel gouvernement israélien avec tout Israël quoi, et tous les Israéliens. Mais oui, ton analyse me semble juste. Quel chat de qualité. Non, mais on est habitué. Il y a Worst Karma qui dit: j'avoue, gros courage de débattre sur des sujets comme celui-là. Gros respect à la modération. Les avis sont trop souvent tranchés et gravés. Ça, on a l'habitude maintenant. Hein. Sur cette chaîne, voilà. On essaie de parler de tout quand on met rien sous le tapis. Hein. Alors, attends, tiens, c'est intéressant ça. Une actu qui pop dans le chat. Alors évidemment, le réflexe ici, c'est de vérifier. Ouais, c'est intéressant. Quelqu'un vient d'écrire dans le chat: merci Kinema Live. En France, 8 personnes mineures en garde à vue pour des chants antisémites dans le métro à Paris. Vous aviez peut-être suivi cette actualité, effectivement. Et je vois plusieurs articles dans la presse. Je vois un article du Parisien ici à l'instant qui le confirme. Vidéo antisémite dans le métro parisien. 8 mineurs de 11 à 16 ans interpellés. Alors, le Parisien va nous rappeler l'histoire. Je vais pas vous montrer la vidéo parce que c'est honteux. Voilà, c'était une vidéo qui avait été tournée par cette jeune femme là, qui était témoin, je crois, de cette scène dans le métro parisien il y a quelques jours, et avec des chants antisémites quoi. Donc ils ont été interpellés, c'est ce qu'on vient d'apprendre ce matin. Selon nos infos, dit le Parisien, mais c'est d'autres articles en parlent. 8 mineurs âgés de 11 à 16 ans. Ah, c'est dur l'adolescence, hein. C'est compliqué, ça rend un peu con parfois. Ils ont été interpellés par le service régional des transports aujourd'hui, après la diffusion de cette vidéo, dans le 31 octobre. Deux d'entre eux étaient déjà connus des services de police. Pour quel fait, ça il faut le voir. Arrestation pourquoi ? Concernant des faits de provocation à la haine raciale et apologie de crimes contre l'humanité. Dans cette vidéo tournée dans le métro parisien que je ne vous montrerai pas, parce que ça va aller la connerie. Il est possible d'entendre plusieurs personnes crier « Nique les Juifs, vive la Palestine » ou encore « On est des nazis et fiers ». Putain, les pires défenseurs de la cause palestinienne possible, quoi. Hein, quand dans la même phrase, tu dis « Vive Palestine, on est des nazis et fiers ». Mais fermez vos gueules. Les pires soutiens du peuple palestinien possible, quoi. Calme-toi. Donc ouais, voilà, bon, bah, l'info c'est qu'ils ont été interpellés après. C'est fou, hein. C'est dingue quand même. Voilà, bon après. Voilà. Bon, c'est ouais, ça. 8 mineurs. Ouais. Voilà. Bon. Je donne l'info parce que ça nous rappelle que voilà. À un moment, il faut être. Quand on tient des propos dans un espace public. Eh bien, on en est redevable, on en est responsable. Voilà. Ils vont devoir répondre de ces mots. Bon, après, peut-être qu'il y aura, au vu de leur âge, 11 ans les plus jeunes. Une forme de, comment dire, quel bon mot. Une forme de... Quel mot vous utiliseriez, vous? Ouais, d'indulgence, ouais. J'ai pas envie de l'utiliser, mais... d'indulgence, de clémence, ouais, ouais. On regarde, quel âge? 11 ans. 11 ans pour le plus jeune. Pff, t'as pas toujours un cerveau à cet âge-là. Pas bien développé, en tout cas, quoi. Puis en droit, il y a l'excuse de minorité, effectivement, quoi. Bon, merci pour cette info, en tout cas. Je reviens, pardon, j'ai fait un pas de côté, sur le papier de l'UMA, sur ce qui se passe actuellement dans la bande de Gaza. La situation est de plus en plus dramatique pour les hôpitaux du nord de l'enclave palestinienne où les morgues débordent et les couloirs saturent de blessés. 20 des 36 hôpitaux sont hors service selon l'ONU. 2 bébés prématurés sont morts parce que leur incubateur ne fonctionnait plus, il n'y avait plus d'électricité, dit un chirurgien de Médecins Sans Frontières. C'est une info qui a aussi été donnée par une association israélienne. Vous avez bien entendu. Parce qu'il y a aussi des Israéliens aujourd'hui qui condamnent ce qui se passe dans la bande de Gaza. Cette info donnée par Médecins Sans Frontières, des deux bébés prématurés qui sont morts parce que leur incubateur ne fonctionnait plus parce qu'il n'y avait plus d'électricité, a aussi été donnée et dénoncée par une association israélienne. Et je dis bien israélienne et pas palestinienne. L'armée israélienne dément, elle, avoir ciblé l'hôpital. Voilà. Qualifiant de fausses les informations selon lesquelles ses troupes encerclent et frappent l'établissement et accusent le Hamas d'utiliser les bâtiments civils comme les hôpitaux pour mener des attaques ou encore cacher des tunnels, ce que dément le mouvement islamiste. Hein, vous avez deux thèses, deux affirmations de part et d'autre. Et sur certains points, comme par exemple les tunnels sous l'hôpital, aujourd'hui un manque d'informations indépendantes, c'est ce qu'on disait, pour confirmer ça, quoi. Hop. Hop. Excusez-moi, j'ai un message de boulot. Merci Laurent, virgule, je ne t'oublie pas pour les photos, virgule, je te fais un retour très vite, point d'exclamation. Excusez-moi. Top, 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 top. Merci Cyril pour le soutien pour le 23e mois. Et puis, dernier papier sur le Proche-Orient, mais on en reparlera bien sûr dans les prochains jours. Comme quasiment, c'est pas quasiment, c'est dans toutes les revues de presse qu'on a fait depuis les attentats du Hamas, évidemment, on a parlé du Proche-Orient. L'humanité constate un changement de ton et s'en félicite de la France dans ce conflit. Paris change de ton, réitère son exigence d'un cessez-le-feu humanitaire. Emmanuel Macron, c'est l'humain qui nous le dit, se fait plus pressant à l'égard des autorités israéliennes en leur demandant d'arrêter les bombardements sur la population civile. Le président de la République, Emmanuel Macron, infléchit la position française sur la guerre conduite par Israël à Gaza en haussant le ton contre les ravages des bombardements sur les populations civiles et en lançant un nouvel appel à un cessez-le-feu humanitaire. Adoptant un discours beaucoup moins conciliant à l'égard des autorités israéliennes que lors de son voyage initial dans la région, à la suite des attaques terroristes du Hamas, il a exigé dans un entretien à la BBC diffusé le 11 novembre, donc c'était il y a trois jours, la fin des pilonnages contre des civils à Gaza. De facto, a-t-il déclaré, aujourd'hui, des civils sont bombardés. On parle des mots du président de la République, ces bébés, ces femmes, ces personnes âgées sont bombardées et tuées, a-t-il déclaré, ajoutant, il n'y a aucune justification et aucune légitimité à cela. Nous exhortons, nous, donc, Israël a arrêté. Le président français, qui rappelle avoir exprimé un soutien très clair au droit d'Israël à se défendre, exprime maintenant sa grande préoccupation de la dimension prise par l'opération à grande échelle lancée sur la bande de Gaza. Aujourd'hui, précise-t-il, il y a trop de victimes. Il y a Maskili qui dit, il faut savoir, il avait dit un soutien inconditionnel, il ne connaissait pas la définition d'inconditionnel. Alors, je me trompe peut-être, mais je ne crois pas que le président Macron ait prononcé ce mot précis. Je crois que c'est un mot qui a été tenu par Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée, qui est macroniste par ailleurs, mais qui a utilisé ce terme lors d'un voyage en Israël. Voilà. Et ce qui lui a été reproché d'ailleurs. Mais je ne suis pas sûr, mais je peux me tromper, on va le vérifier tout de suite. N'hésitez pas à me mettre la citation du président Macron qui aurait dit ça. Je ne suis pas sûr à vérifier qu'il ait parlé d'un soutien inconditionnel. Je crois que c'est Yaël Braun-Pivet qui l'avait. C'est ce que me dit Bébert, effectivement. C'est Braun-Pivet, c'est pas Macron. Le pilier de barre, c'est Braun-Pivet. Voilà. C'est ça. C'est ce que me dit Diclem aussi. Mais peut-être que le président Macron l'a dit. Mais dans ce cas-là, il faut me mettre le lien, l'article ou les mots, quoi. En tout cas, c'est un infléchissement. Et là, il met plus la pression sur Israël qu'avant pour que ça s'arrête, quoi. Ça montre en tout cas, au sein même de la Macronie, des divisions sur le sujet, hein. Comme il y a des divisions au sein de LFI, la France Insoumise, sur le sujet. Comment tu fais quand tu lis les journaux pour savoir si c'est une fake news ou pas, me demande Am Groot. C'est toute la difficulté. C'est compliqué. Voilà. On regarde la source. Toujours se demander qui vous dit, qui vous donne une info. Qui ? Est-ce que c'est quelqu'un d'identifié d'abord ? Est-ce que c'est quelqu'un que vous pouvez identifier ? C'est-à-dire que si la personne émet une fausse information et que vous vous en rendez compte que c'est avéré, dénoncé dans les jours qui suivent, au moins vous savez qui l'a dit, vous savez dire tartempion, machin, truc, a dit de la merde, quoi. Donc déjà, est-ce que la personne qui émet l'info est identifié ? Est-ce que c'est un journal qui a pignon sur rue ? Est-ce que c'est quelqu'un qui signe de son nom ? Est-ce que c'est juste quelqu'un sur un réseau social qui a un pseudo, par exemple ? Voilà. Donc, quelle est la source ? Après, est-ce que cette source a l'habitude d'émettre des infos de qualité ou pas ? Voilà. Deuxième critère. Après, tu peux pas rajouter plein de critères comme ça. Voilà. Est-ce que cette information donnée par cette source est confirmée par d'autres sources qui me semblent fiables ? Ouais. Quand une information est donnée par plusieurs sources, une source, donc ça peut être un média, mais pas forcément un média, qui dans le passé a fait preuve de rigueur dans son émission d'information, ben on peut dire, alors, on peut avoir un a priori positif sur la qualité de cette info, quoi. Enfin, c'est un faisceau d'éléments qui vont te faire dire que tel ou tel média est en général fiable. Voilà. Mais avec toujours beaucoup de prudence, même les médias les plus rigoureux, même les sources les plus rigoureuses peuvent aussi se tromper. Voilà. Tu peux croiser l'info avec d'autres sources, dit Truitosaur, multiplie les sources. Hein. Tu peux regarder les tutos de Defecator, très bon conseil de Moutos. Check News de Libération, me dit Tiklem, fait un super taf aussi. Ouais. À France Info aussi, autour de Julien Pin et de ses camarades, il y a aussi une belle cellule de debunk, de lutte contre les fake news. Voilà. Hein, vous avez dans pas mal de médias maintenant, vous avez des cellules qui ne font que ça, que du debunk. Oui, on a fait top 1 sur Fall Guys hier soir. AFP aussi. Ouais. Top 1 avec Moment. Ouais. Enfin, top 1 grâce à Moment. Voilà pour le Proche-Orient. On a parlé de la manifestation hier contre l'antisémitisme. On a parlé de la situation au Proche-Orient, on a pris un petit peu le temps, et maintenant un dossier dans la Croix qui ne me semble pas inintéressant sur la menace terroriste contre notre pays. Alors c'est pas très très gai non plus. Mais ça me semble important, parce que demain ça peut être notre quotidien si notre pays est à nouveau frappé par le terrorisme, comme récemment dans une école d'Arras, vous savez, où un enseignant... Et là, ça trouvait la mort. Tristan, merci pour le 4e mois d'abonnement, merci pour le soutien. Un mois après justement l'attentat d'Arras, nous dit La Croix ce matin, les services de renseignement relèvent de nouvelles trajectoires de radicalisation parmi les très jeunes. Un mois après l'attentat d'Arras, soutien à tous les enseignants, je ne sais pas s'il y en a dans le chat ce matin, aucun nouveau passage à l'acte n'a été recensé, bonne nouvelle. Mais les services de renseignement sont toujours en alerte maximale. Ils évoquent notamment l'émergence de profils inquiétants chez les mineurs, des mineurs en France qui retrouveraient aujourd'hui un attrait pour Daesh. Lisons, c'est tout juste, il y a tout juste un mois, quel jour on est ? Ah bah oui, il y a tout juste un mois, le 13 octobre, la mort à Arras d'un professeur donc, Dominique Bernard, à l'entrée d'un collège d'Arras qui avait bouleversé la France, tout en faisant monter la France. D'un cran, la menace terroriste dans un contexte d'extrême tension internationale avec les événements au Proche-Orient. Un mois après cette tension n'est pas retombé, même si aucun passage à l'acte n'a été recensé dans l'Hexagone. Il y a Labarcis qui dit « L'attentat d'Arras n'a pas de lien avec le Proche-Orient, je crois, et moi je crois que tu as raison, et on va y revenir. » Contrairement à ce que disait un certain ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a parlé un petit peu trop vite, si je puis me permettre. Tu as totalement raison, je relis ton pseudo, où es-tu ? Labarcis, tu as totalement raison, et voici la démonstration. Quelles conséquences peuvent avoir en France les répercussions de l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre et la riposte israélienne dans la bande de Gaza ? En gros, est-ce que la situation au Proche-Orient peut provoquer du terrorisme sur le sol national ? La question était déjà dans toutes les têtes avant l'attentat d'Arras, mais ces événements, écoutez bien, ces événements ne semblent avoir joué qu'un rôle marginal dans les motivations de Mohamed M, 20 ans, qui avait commis cet attentat d'Arras et revendiqué son acte au nom de Daesh. Déclaration du procureur antiterroriste Jean-François Ricard. On est en présence, donc pour Arras, d'un individu ultra-radicalisé qui avait choisi de passer à l'acte, manifestement, depuis plusieurs mois. Donc, les événements au Proche-Orient n'auraient joué qu'un rôle marginal, pour reprendre les mots du procureur, dans cet attentat. Et pourtant, au lendemain de cet attentat, Natou, merci pour le soutien, c'est adorable, merci pour le 20e mois, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait déclaré qu'il y avait, selon lui, un lien entre ce qui se passait au Proche-Orient et cet attentat d'Arras. Je me rappelle que j'avais appris l'info, on était dans l'hebdo Étienne, notamment avec Héloïse Fayet, qui est une chercheuse, qui est une vieweuse et qui est une chercheuse sur le Proche-Orient et qu'on a invité deux fois de suite dans l'hebdo Étienne tant elle était top. Et moi, j'avais été surpris par cette déclaration de Darmanin en disant « Ah, c'est curieux quand même s'il doit le dire, c'est qu'il a des infos là-dessus. » On est en train de se rendre compte que, je ne sais pas si M. Darmanin t'avait tout ce matin, mais manifestement, il a parlé trop vite. Voilà. Mais, attention les amis, selon plusieurs experts, ce n'est pas forcément sur les individus radicalisés de longue date que ce conflit du Proche-Orient pourrait avoir le plus d'impact, mais davantage sur des individus à la périphérie du noyau dur de la mouvance djihadiste, des gens isolés, susceptibles de réagir de manière épidermique à ces événements, indique Kevin Jackson, directeur d'études au Centre d'analyse du terrorisme en France. Ce sont ces individus isolés, souvent jeunes, qui préoccupent aujourd'hui les services de la lutte antiterroriste. On voit émerger dans la génération des 13-18 ans des jeunes gens qui retrouvent un certain attrait pour l'État islamique, des individus qui sont depuis des mois, pour certains, dans le collimateur de la DGSI. La source qui parle à la Croix explique « On voit émerger... » Où est-ce que c'est ? Pardon. « Il y a plusieurs profils. On voit d'abord des gens très jeunes, immatures, en rupture, souvent en quête de sens, d'une réponse idéologique et religieuse assez simple face au désordre du monde et à leur propre désordre personnel. » Quand le monde part en sucette, quand le monde devient d'une complexité incroyable, quand même à l'intérieur de soi, on est un petit peu en questionnement, eh bien, une réponse idéologique basique, simple, les méchants, c'est eux, hein, le mal, c'est eux, réponse idéologique ou religieuse, eh bien, en fait, ça peut être très séduisant parce que subitement, ça apporte des réponses, ça apporte de la lumière, là où c'est l'obscurité, là où c'est la question, là où c'est l'interrogation, on est en quête de sens. Et à un moment, des gens qui vous disent « Ah, mais c'est très simple, en fait, voilà. » Eux, c'est les méchants, nous, on est les gentils. Bah, ça peut être séduisant. C'est complètement con, mais ça peut être séduisant. Il y a aussi des individus animés par une certaine forme de violence et qui vont canaliser celle-ci dans une idéologie religieuse. Voilà. Donc, c'est les gens qui s'emparent de la religion tout simplement pour laisser s'exprimer leur violence. Donc, des gens qui n'ont à aucun moment compris le vrai message de la religion, qui est un message de paix et d'amour, hein, dans toutes les religions. Mais sauf que l'homme aime dévoyer le message religieux depuis toujours. Et il suffit de voir tous les crimes qui ont été commis au nom des religions. Une réponse sur le... Il y a aussi, moi ça je l'ai lu, enfin certaines personnes présentent un profil très religieux et vont adhérer à un discours affirmant qu'il n'est pas possible de blasphémer et que cela mérite une riposte, y compris violente. Pardon, encore une fois, je me permets... Même si je ne suis pas croyant moi-même, j'ai quand même beaucoup étudié la religion. Et là encore, professer la violence ou commettre la violence au nom d'une religion, c'est ne rien avoir compris aux religions. Cette source ajoute que ces individus baignent souvent dans une idéologie décrivant la France comme un pays hostile aux musulmans. Chez certains jeunes, violents, instables ou en proie à des problèmes, à des désordres personnel, ce discours peut avoir des effets importants. Voilà pour ce petit point sur la menace terroriste en France. Aujourd'hui, pas de nouvelles menaces, pas de nouveau passage à l'acte recensé depuis l'attentat d'Arras, mais vous l'avez compris, les autorités sont sur le qui-vive. Je vous lis. Tchernosaurus, l'Ancien Testament, c'était pas très paix et amour comme thème principal. Ouais, mais qui a écrit l'Ancien Testament ? Oh là là, la régalade. MT Silverblade, je reviens à toi dans un instant, merci pour le soutien. Qui écrit les textes religieux ? Qui écrit les textes religieux ? Bah, ce sont des hommes. D'ailleurs, c'est marrant, c'est vraiment des femmes d'ailleurs. C'est vraiment des hommes d'ailleurs. Peu importe. Qui écrit ça ? Là. L'Église, c'est-à-dire que la construction humaine autour du sentiment religieux, bah ce n'est qu'une construction humaine. Voilà. L'organisation humaine autour d'une foi, d'une croyance, quoi. Voilà. Et ces textes sont écrits par des hommes. Voilà. Donc c'est pas parce qu'un texte dit une connerie que le message profond de la religion c'est celui-ci, quoi. La quasi-totalité, pour ne pas dire l'immense majorité des croyants de ce monde, quelles que soient les religions, sont des hommes de paix. Sont des hommes et des femmes de paix. Le problème, ce sont les lectures dévoyées du message religieux. Du message religieux. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre l'islam et l'islamisme, par exemple, on en parlait tout à l'heure. La majorité des non-croyants aussi, bien sûr, à voir, bien sûr. Je ne suis pas religieux. Hein. C'est juste que je suis tolérant vis-à-vis des gens qui croient, des croyants. Je ne le suis pas moi-même. Non, effectivement, mon café n'est plus très chaud, quoi. Lolo Tilou dit, écrit, et je suis d'accord, le problème n'est pas la théologie, mais ce que les hommes en font, bien sûr. Diesel, mais trouvez un défaut à cet homme, s'il vous plaît. J'en ai des milliards. Et Silverblade, en cite un, il s'énerve vite sur Fall Guys. Voilà. Silverblade qui nous a régalé, je reviens, qui a offert 10 abonnements à la commu. Et il pète au lit. Ah, ça, c'est faux. Non. Non, c'est Cyril qui a écrit ça. Non, alors je pète pas au lit. Ah non, je pète en stream. Vous ne vous en rendez pas compte d'ailleurs, parce que c'est très discret. Voilà, je suis un homme élégant, je suis un homme subtil et fin. Voilà. Mais ça, oui. D'ailleurs, Sarah confirme, Sarah Molly, dans le chat, il pète en live. Oh, pop, pop, pop. Oh, la honte. Nous recevons un raid de l'ami David Dufresne, Dave Duf. Excellente chaîne, allez voir. Au moment où je rappelle que je pète en live. David, tu pètes en live ou pas, toi ? Parce que quelqu'un m'accuse dans le chat de péter au lit. On était à la recherche de mes nombreux défauts. Mais je disais, non, c'est pas vrai. Fake news, je ne pète pas au lit, par contre je pète en live énormément. Des discrets, des silencieux, donc les pires, comme dit Bernays dans le chat. Vous arrivez au très bon moment. David, merci, hop, regardez la chaîne de l'ami David. Voilà, j'ai fait un petit tweet hier ou avant-hier, je ne sais plus, pour saluer et appeler à soutenir le travail de David Dufresne. Au poste, Liberté publique, pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir ce qui se passe du côté de la chaîne de David Dufresne. Liberté publique, police, politique, ciné, littérature, contre-filature, causerie proposée par le réalisateur David Dufresne. Ah, c'est mignon, il y a Coupe Rouge qui dit j'ai reçu Monsieur Dufresne. Monsieur Dufresne, maintenant, c'est beau. Au cinéma, à Guingamp, super gentil, ce monsieur est plein d'intelligence. Déjà, il va en Bretagne, donc c'est déjà un homme de qualité. Suivez la chaîne pour être notifié et abonnez-vous et adonnez-vous même au site postauposte.fr. Voilà. Voilà. Merci David pour le soutien. Merci pour le raid. Et bravo pour tout ton boulot. Touk. Touk. Merci Aude B63 pour le cinquième mois d'abonnement. Lao Gros Lao, merci pour le neuvième mois. Griotte 2 pour le 24e mois. Natou, Tristan, Cyril, je ne sais plus si je vous ai remercié, j'ai un doute. Merci. Et à Silverblade, merci pour les abonnements offerts à la commu. Merci vraiment. Bon, c'est normal, David. Hein. T'as vu, j'ai laissé passer un petit peu de temps hein, pour le petit tweet parce que je voulais pas le faire en même temps que tout le monde, mais je l'ai mis dans un petit coin de ma tête, j'attendais le bon moment. Voilà. Merci à toi. Ok, super. Il y a des gens qui mettent maintenant des. Je crois que c'est les modos qui mettent des liens avec des exemples, des preuves de prout pendant les streams. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Notamment un prout au Stade de France, mais puisqu'ici, voilà, on ne fait rien à demi-mot, voilà, enfin à demi-prout pour le coup, parce que quand on pète, c'est notamment au Stade de France. Et oui, en plein stream. Et oui, on est comme ça ici. Et oui, on se régale, on se régale. Alors, David et les amis de David, vous êtes les bienvenus. Si vous nous rejoignez, bah, sachez qu'on a beaucoup parlé de la marche contre l'antisémitisme hier. On a beaucoup parlé de la situation au Proche-Orient, on est ensemble depuis 2 heures. Vous avez la chaîne de David qui s'affiche dans le chat, là. N'hésitez pas à suivre Davduf. Et puis maintenant, ben, d'autres petites infos, on va dire un petit peu plus légères pour changer les idées. Alors, en une des échos, le quotidien économique, là, vous avez un dossier sur le marché des voitures de luxe en plein boom. Alors, il ne s'agit pas de nous pâmer devant les belles voitures rouges qui font du bruit, machin, tout ça, mais plutôt de faire ce constat, il y a de plus en plus de gens dans le monde qui sont capables de s'acheter, c'est pas pour nous, c'est pour eux, ces voitures. Et c'est ça qui est intéressant. 100 000 unités en 2020, écoutez bien, on parle des voitures de luxe. Alors économiquement, d'après l'article, voiture de luxe, c'est à partir de 150 000 euros. 100 000 unités en 2020, 170 000 unités l'année suivante, 250 000 en 2022. Ça va bien, hein, les voitures de luxe. Le marché des voitures coûtant plus de 150 000 euros ne cesse de croître et devrait encore afficher des croissances annuelles à deux chiffres d'ici à la fin de la décennie. C'est pas la crise pour tout le monde. Hein. C'est pas la crise pour tout le monde. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Exactement. Alors, bon, moi, c'est, vous avez compris, c'est moins l'aspect bagnole que l'aspect richesse qui m'intéresse dans cet article. Voiture de luxe, Ferrari distance ses rivaux dans un marché survolté. Le marché, c'est la fête. Hein. Toujours plus nombreux, les clients ultra riches, là, on ne parle pas des riches, on parle des ultra riches, propulsent le marché à des niveaux de prix inédits dans des volumes dépassant 250 000 unités par an. Les résultats du troisième trimestre de la marque au cheval cabré, donc Ferrari, l'ont confirmé. Ferrari vit sur une autre planète que les autres constructeurs. La marque italienne a dévoilé une marge stratosphérique, 38%. La marge, 38%, c'est énorme. Au titre du troisième trimestre. Et pour cause, les clients n'ont jamais été aussi nombreux ni aussi riches. Il y a Loxane qui me disait dans le chat 75, question, est-ce qu'on a une idée de cette soudaine affection pour les voitures de luxe, bah, tout simplement, c'est qu'il y a plus en plus de gens dans le monde, une ultra minorité d'ultra riches, qui ont les moyens de se les acheter, tout simplement. Ah, attendez, message. Ah, super. Il y a mon petit Solal qui va manger chez un petit copain ce midi, avant la classe. C'est trop mignon, trop chou. Donc les clients n'ont jamais été aussi nombreux ni aussi riches. La population des personnes à écoutez les définitions. La population des personnes à valeur nette élevée, en anglais high net worth individuals, qui, alors, définition de ces gens qui ont des sous là, qui disposent de 5 millions de dollars à investir, progresse de 9% par an et celle des ultra riches, capital à investir de 30 millions ou plus de 5%. On ne parle pas des gars, des salariés qui ont un bon gros salaire et qui ont un bel appartement, une belle voiture, un peu d'argent pour partir aux vacances là. On ne parle pas des gens aisés là, on ne parle pas des bourgeois là. On parle des ultra riches quoi. Hein. 5 millions de dollars à investir, 30 millions de dollars à investir quoi. Donc c'est ces gens-là qui achètent. Hein. En conséquence, le nombre de voitures de luxe écoulées a bondi ces dernières années. Donc on est passé aujourd'hui à 250 000 unités en 2022 à partir de 150 000 euros. La tendance ne devrait pas faiblir, c'est pas terminé. Le cercle très fermé des possesseurs de bolides à plus d'un demi-million d'euros devrait s'élargir d'ici la fin de décennie. Et ce, à grande vitesse. Dans une récente étude, McKinsey tablait sur une croissance des ventes de ces véhicules de 14% par an. Dans les segments inférieurs de luxe, de 80 à 500 000 euros, les ventes devraient progresser un peu moins fort, de 8 à 10% par an. Tous les groupes automobilistes généralistes lorgnent ce gâteau qui ne cesse de croître, ainsi que ses marges colossales, parce que tu marches beaucoup plus sur ces véhicules, qui relèvent pour les segments les plus exigeants des codes de l'industrie du luxe. Tu n'achètes plus une bagnole, tu achètes un signe extérieur de ce que tu veux, de richesse quelque part. Depuis quelques années, chacun choisit sa ou ses marques propres, Lamborghini et Bentley chez Volkswagen, parce que c'est Volkswagen qui contrôle maintenant Lamborghini et Bentley, Maserati chez Stellantis, puisque c'est Stellantis qui contrôle désormais Maserati. Bon, alors je ne vous ai pas lu tout l'article sur les dernières nouveautés des uns et des autres, Ferrari, comment ça marche, les tentatives de ces constructeurs de luxe d'aller aussi vers l'électrique. Voilà, ça, l'actu auto en tant que tel m'intéresse pas. Le constat des échos est quand même clair. Il y a de plus en plus de gens, c'est une ultra minorité, mais ils sont de plus en plus nombreux, à pouvoir acheter ce type de véhicule. Quoi. Je vous lis un petit peu et on enchaîne avec... Un papier que j'ai beaucoup aimé sur comment apprendre la frustration à vos ados. Puis après, j'irai faire un petit pipi aussi. Putain, mais limite, on va lancer un... Limite, on va avoir le temps de lancer un mini-stream de Fall Guys. Hein. Mister Yogis, merci pour l'abonnement offert à Cope Rouge. Bah, une demi-heure, quoi. Non, mais en vrai, j'ai une demi-heure parce que j'ai un rendez-vous après. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Sachez que l'auteur de ces mots sera dans l'hebdo Étienne vendredi. Je vois Sapajou qui dit un clin d'œil à un humoriste qu'on aime bien ici. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Il est là. David Castillo-Lopez, de retour dans l'hebdo Étienne vendredi, exactement. Voilà. Le retour. Vendredi, c'est 20h. Anciennement journaliste d'ailleurs. Lolilol, ouais. Exactement, tu as raison. Allez, je vous lis sur les ultra riches là. Non, j'avais compris l'Oxane. L'Oxane dit, question reformulée, y a-t-il un changement de comportement chez les ultra-riches qui seraient plus enclins à acheter des grosses bagnoles? Ou eh bien cette attitude est liée à un enrichissement plus de gens riches? D'après les échos, il y a plus de gens riches, d'ultra-riches, c'est même pas riche, hein, tu l'as compris, hein. Il y a plus de gens ultra-riches qu'avant. Ils sont pas très nombreux, hein, mais ils sont plus riches. Est-ce que tu fais partie des ultra-riches, Samuel? Non. C'est des critères assez, assez clairs, je ne suis pas ultra-riche. Merci, Saritei. Est-ce que vous êtes content de voir l'ami David Castillo-Lopez de revenir à la maison? Ça, c'est cool. Ouais, c'est ça. C'est pas un changement de comportement, c'est une augmentation du nombre d'ultra-riches. Exactement, exactement. On parle d'individu, on parle pas d'entreprise, t'es Nuki-san là. toute façon, moi, je trouve que la bagnole, c'est trop cher. Bien trop cher. Les amis, autorisez-moi à faire un petit pipi et à me refaire un petit café. Peut-être un petit déca. Non pas qu'on ait 1000 articles à lire, mais que comme on a été assez rapide, on va lire l'article sur, non pas les oignons au pied, mais sur l'adolescence. En vrai, l'article est bien écrit, c'est dans le Figaro, page santé, page 16 aujourd'hui. Et puis après, peut-être qu'il restera quelques minutes pour se faire, pour, je vais essayer de lancer un petit Fall Guys. Voilà, avec un petit suspense, parce que vous, je le réinstalle sur ce PC, mais ça devrait prendre 2 secondes. Ok, je vous mets une petite pause. Hop, petite pause musicale, petite pause pub. J'en ai pour 2 minutes. Le temps de faire un petit café. Est-ce que c'est bien ça? Ouais, c'est pas mal ça. Je mets un peu moins fort. Ok, je vous mets ça. On se retrouve dans 2 minutes, les amis. Voilà, pour. Merci, Loïs Lane, pour l'abonnement offert à Ephesios. Merci Julio Franchute, comment vas-tu pour le 25e abonnement? 2 minutes de pause, un petit café, une petite hydratation, vous buvez ce que vous voulez, un Coca-Cola, Carinclès, que sais-je, de l'absinthe, une petite tisane, un verre d'eau, l'eau c'est très bien, profitez, bientôt il n'y en aura plus, disait l'autre. Voilà, on se retrouve dans, on se retrouve dans 2 minutes, et peut-être qu'on aura le temps de faire un petit gaming. A tout de suite, bande de belles personnes. Go!
everything's fine. Wouldn't expect any more from this. The situation's in line with every story that I heard of the burning bliss. And I will try to appreciate, and I will try to evaluate.
Putain, mais je suis parti super longtemps. Je suis parti combien de temps? Mais l'ami SDF. Oui, une doudoune. Ouais, une doudoune. Ouais, j'ai mis la doudoune parce qu'en fait, je suis transi de froid. J'allume pas le chauffage dans ce studio. Si je peux ne pas l'allumer de l'automne et de l'hiver, d'ailleurs, je l'allumerai pas. Quand on est à côté, qu'on allume tous les PC, les lumières, là, avec Joe, ça nous fait notre petit chauffage. On est bien, là. Hier soir, en fin de stream, on était bien avec Moment, là. On était bien chaud, bien chaud. Enfin, le jeu nous a de Fall Guys nous donnait bien chaud aussi. Mais là, j'ai rien qui chauffe là. Donc j'ai mis ma petite doudoune là. Voilà. Voilà. Les voisins d'en bas chauffent pas. Bah non, ils chauffent pas les voisins d'en bas, te loup. Hein. Je peux te dire que ça chauffe pas là. Dollar, merci beaucoup pour le deuxième mois d'abonnement. Et Dragnar TV pour ce quatrième mois d'abonnement. Voilà. Si vous faites attention, les gars. Eh, hey, si vous faites attention. Regardez, qu'est-ce que c'est ça? Vous avez pas vu les petites diodes là? Mais c'est magique. Je vous montre ou pas? J'allume pas le chauffage, mais j'ai mieux que ça, qui ça consomme beaucoup moins. Regardez. Regardez. Hop. Là, rouge, ça chauffe. C'est une toc. Là, ça chauffe un peu moins. Là, ça passe. On voit pas très bien, mais ça passe en bleu. Ça chauffe, mais ça chauffe encore un peu moins. Voilà. Et hop, on repasse en rouge. Voilà. Pourquoi deux? Ça chauffe devant, ça chauffe derrière. C'est un cadeau de mon amoureuse de l'hiver dernier. C'est une doudoune chauffante. Voilà. Ça marche super. Ça, en 5 secondes, ça chauffe vachement. Et plutôt qu'allumer le chauffage dans tout l'appart, là, avec la, ce que vous imaginez en termes de consommation, eh ben, moi, je mets une petite doudoune chauffante. Ça, c'est la batterie. Voilà. Hop, voilà. Là, je l'échappe. Ah, bah non, c'est déjà consommé pas mal. Bon, elle est un petit peu fatiguée parce que je l'ai utilisée l'hiver dernier, puis je ne l'ai pas rechargée depuis, quoi. Donc, elle se décharge un peu vite maintenant. Enfin, ça tient une journée sans problème, quoi. Trop bien. Bah non, je mets pas le lien, je sais pas. Je demanderai à Hélène. C'est Hélène qui me l'a acheté. Je sais pas du tout comment ça s'appelle. Ça marche trop bien, ça marche trop bien. Après, faut pas que ça s'enflamme, quoi. Non, mais en vrai, c'est super. Voilà. Il faut quand même que l'appart ait une température au-dessus de 17 pour éviter les moisissures. Ah. Ouais. C'est pas trop cher en plus, hein. Et moi, je l'ai utilisé déjà toute une saison froide l'hiver dernier. C'est cool, hein, c'est cool. Produit fabriqué en... Oui, oui, je crois que c'est français, ouais, Audacious. Je vous dirai. Ça fait du bien. Oh, va faire ton top 1 Fall Guys, là. Attends, il en reste un article à lire. Non, c'est pas mal. Mais il faut que je m'achète ça pour mes chaussures aussi, parce que j'ai froid, là. Bon, allez, on lit l'article sur les ados, là. Moi, j'ai un rendez-vous, j'ai un live à... Un Teams, là. Je sais pas, une visio, là, pour le boulot à 12h30. Donc, si on lit l'article vite, là, on peut faire un petit trois quarts d'heure, une demi-heure, trois quarts d'heure de Fall Guys. Si j'arrive à le télécharger. Daria, merci pour le quatrième mois d'abonnement. Quoi? Me dites pas que Moment est dans le chat, hein. Il est pas là, Moment, dans le chat. Il est là, Moment. Ce serait incroyable. Il est là, Moment. Il est là, Moment. Il est là. Quoi? C'est lui qui m'a dit ça? Ah, c'est, mais j'avais pas vu que c'est... On va faire ton top 1, Fall Guys. Mais t'es dans le train? Il est dans le train? Il regarde dans le train, je suis sûr qu'il est dans le train. T'es dans le train? Moment qui nous a régalé hier soir. Parce qu'il devait repartir vers ces heures-là à Montpellier. Trop mignon. Oh, t'es trop gentil. Il vient de Montpellier, il vient jouer avec nous. Il m'explique Fall Guys, on rigole. Il a du mal à me coacher, hein, le pauvre. Ah, et il est là encore avec nous. Ah, c'est trop mignon. Bon, bah, bon retour en tout cas. Bah. C'est, je voulais t'envoyer un message pour te remercier encore. Bah, je te le dis de vive voix. Merci, mon ami. Allez, avant de tenter de lancer ce petit stream Fall Guys pour rigoler, un article que je trouve vraiment super sympa sur l'adolescence. Hein. Vous êtes tous passés par là. Vous avez tous passé par là pour les plus jeunes. Vous avez peut-être des enfants ados ou vous allez en avoir. C'est important, c'est concernant. Comment apprendre la frustration à vos ados? C'est un âge compliqué. Hein. Afroxys, merci pour ce 7e, c'est énorme. Hormones, mais oui, c'est compliqué l'adolescence. Et développement cérébral explique les colères des ados face aux contraintes. Mais apprendre à les gérer est indispensable. Il y a Cyril qui dit, mais c'est quoi cette dinguerie? Samuel nous montre sa doudoune chauffante et savez-vous le spam que je viens de recevoir sous mon email professionnel, un mail intitulé « Connaissez-vous la doudoune chauffante ?» On n'est pas dupes, ces machines nous écoutent, c'est évident. Hein, je suis sûr qu'on est très nombreux dans le chat à avoir fait cette expérience, genre on parle à la maison d'un truc, tu vois, il y a, je sais pas, les enceintes connectées, les machins pas loin, je sais pas quoi là, et bim, une demi-heure plus tard, t'as la pub, quoi. On n'est pas dupes. C'est quand même très étrange. Hein. C'est quand même très étrange. C'est parti pour les ados là. Tout être humain est biologiquement programmé pour le plaisir. Hein. C'est d'ailleurs ce qui donne envie d'avancer. Je sais pas. C'est la recherche. C'est vraiment ça qu'on recherche, le plaisir? Je sais pas. Mais on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut, ça c'est sûr, en particulier quand on vit en communauté. Il y a une réalité dont il faut bien tenir compte. Et les autres aussi, avec leurs propres besoins, leurs propres envies, hein, en font aussi partie. Les impossibilités, donc les refus dans la vie, sont inéluctables. Et il faut apprendre à les supporter. Et parfois, c'est un long chemin. Alors, on parle des ados, mais pour les enfants, apprendre la frustration, apprendre le fait qu'on ne peut pas voir tout le temps. Si vous avez des enfants en bas âge, bah, c'est aussi un truc qu'on doit apprendre. Bah, d'ailleurs, l'article le dit. Ça commence dès l'enfance, ce sont les parents qui choisissent où l'enfant vit, hein, ce qu'il mange, ce qu'il porte, ce qu'il fait comme activité. Ils imposent à leur enfant ce qu'ils pensent être juste et normal, d'ailleurs, dit le docteur Marie-Claude Gavard, qui est psychiatre et auteur de « Mais qu'est-ce qui passe dans ma tête ?» L'enfant peut en ressentir de la frustration, et il en ressent de la frustration d'ailleurs. Tartichou, je t'envoie de la force parce que t'es peut-être passé par des petits moments hein, comme ça un petit peu... Je te lis. L'enfant peut ressortir de la frustration et cela fait partie du rôle éducatif des parents d'expliquer pourquoi il en est ainsi. Communiquer. Et j'aime bien cet article parce qu'il insiste beaucoup sur l'importance de la communication, de l'échange au sein même de la famille. Communiquer en écoutant l'enfant, lui demander son avis, l'aider à verbaliser ses émotions, c'est pas le laisser faire ce qu'il veut, n'importe quoi, mais c'est lui parler, lui expliquer. C'est la base, hein, c'est la base. Tout le monde le sait, tout le monde doit le savoir. Cette volonté de créer de la communication crée un climat de confiance. Ainsi, moi j'ai un petit Solal là, comme ça qui est 3 ans, qui a du mal à, comme beaucoup d'enfants, à découvrir la frustration, qu'on puisse lui dire non à un truc qu'il veut. Eh ben il faut pas aller vers la punition, il faut pas hausser la voix, il faut lui parler, lui expliquer, le faire passer à autre chose, et ça marche, hein, le pouvoir des mots. Il est aussi possible de laisser faire l'enfant ses propres choix pour certaines choses, s'inscrire à telle activité qu'à une autre par exemple. À l'adolescence la situation se complique. Voilà, nous dit l'article, l'ado gagne en autonomie sans disposer de tous les outils pour gérer ses désirs. Il veut être autonome, mais chouchou, il n'a pas de sous, donc il n'est pas encore un peu de vous, c'est très frustrant tout ça. Alexandra, j'irai voir TikTok tout à l'heure, on est sur autre chose là. S'il est aussi difficile à un ado de réfréner ses envies immédiates pour passer à des plaisirs différés en fonction d'objectifs plus lointains, c'est en raison du développement plus lent de son cortex préfrontal et d'une sensibilité accrue aux récompenses, aux émotions, sous l'effet des différentes hormones de la puberté. Voilà, c'est compliqué, c'est plus compliqué pour un ado, encore plus que pour un enfant, de réfréner ses envies immédiates. Quoi. Il y a beaucoup de frustration, c'est les hormones. Bombardé par des tentations, les émotions, hein. On voit lesquelles notamment. Bon, je dis ça, je dis rien, mais pas encore équipé pour maîtriser ses impulsions. Enfin, si, le problème, c'est que parfois, il est équipé, justement. Enfin bon, Peu importe. L'ado est de fait particulièrement vulnérable à la frustration, détaille Audrey Platania, qui est psychologue. De quoi provoquer à la maison des disputes homériques. Les parents doivent garder en tête, les parents, si vous nous écoutez, ou ceux qui auront des ados un jour, les parents doivent garder en tête que pour gérer la frustration, c'est plus compliqué pour les ados. Ce d'autant plus que la société favorise la surconsommation et que le monde de demain peut sembler bien insécure. J'ai baissé le son par rapport à tout à l'heure à cause de la musique, pardon. J'allais engueuler un Natim qui dit « Ah purée, c'est pénible d'écouter le russe sur ma tablette, j'entends rien. » Non, non, excuse-moi, j'ai baissé le son, autant pour moi. Je monte. Les études montrent que quand un ado passe du temps avec les adultes, avec qui il a confiance, il arrive mieux à réguler, à contrôler ses émotions, alors qu'il arrive moins bien quand il est avec son groupe de pères. Voilà. Les parents ont donc un rôle important à jouer, être à l'écoute, dire à son ado qu'on a confiance en lui, qu'on sera toujours là pour lui, est essentiel. Par ailleurs, il ne faut pas minimiser l'impact intéressant du renforcement positif, de la gratification immédiate, par exemple en remarquant ce que l'ado fait de bien. Hein, quand il prend une douche, par exemple, une fois par semaine ou une fois par mois, il dit « Bravo, tu vois que tu as retrouvé le chemin de la salle de bain. » Et en le complimentant à ce sujet, tu vois, c'est bien de retrouver ton visage là. Bravo. L'adolescence est à une période de risque aussi, là je reviens un petit peu plus sérieux, car le développement du corps peut générer des complexes, de l'angoisse, de la frustration par rapport à ce que l'ado souhaiterait. Hein. Il voudrait plus grand, il voudrait plus mince, tout ça. Rappelle Dr Gavard. Inutile donc d'en rajouter avec des frustrations inutiles pour lui éviter le sentiment que la coupe est pleine. Faut les ménager les ados. Il ne faut pas hésiter à demander à un ado si quelque chose le met mal à l'aise. Le petit surnom qu'un parent donne tendrement depuis l'enfance peut parfois devenir lourd à 15 ans devant les copains. Hein. Mon doudou, mon chouchou, mon bibi, voilà. C'était mignon petit, mais peut-être que plus grand, ils en veulent plus, ou pas, en tout cas pas en public. Quoi. C'est un exemple. La communication ne peut pas tout, mais lorsqu'un ado a le... Ça, j'aime bien cette phrase. La communication ne peut pas tout, mais lorsqu'un ado a le sentiment qu'il est écouté et compris, il va souvent mieux. Ses envies ne doivent par ailleurs pas être balayées d'un revers de main. Ce n'est pas parce qu'une chose vous semble futile, qu'elle est nécessairement pour lui. Ouais, ma mère m'a appelé mon chat jusqu'à mes 15 ans, m'a dit « Ouais, mais c'est mignon. C'est chou. Vos parents vous aiment, hein, du plus profond de leur être, hein, en général. Faut en prendre conscience, hein, c'est beau, hein, c'est précieux. Hein. » Si l'ado se sent respecté et écouté par ses parents, il pourra plus facilement parler de ses difficultés, le partage pouvant aider à trouver des solutions, dit le docteur Gavard. C'est le meilleur rempart contre la frustration et l'anxiété qu'elle génère quand tout ne se passe pas comme l'ado le souhaite. Échec scolaire, échec amoureux, on a tous connu ça. Hein. L'un, l'autre, les deux, risquent de pousser certains vers des conduites à risque ou une addiction. Apprendre à accepter les contraintes, les déplaisirs, les frustrations ne peut... Ne plus être dans le tout de suite est le meilleur moyen d'acquérir une résilience plus forte et de vivre mieux son adolescence, puis sa vie d'adulte. Écoutez, cet article, il enfonce plein de portes ouvertes pour les gens qui savent déjà tout ça, mais je trouvais que les messages quand même étaient hyper intéressants et extrêmement positifs. Voilà. Le dialogue au sein de la famille. Récemment, le chat m'a fait découvrir une chanson de comment il s'appelle le rappeur normand là, que j'aime beaucoup là. Orelsan, comment s'appelle la chanson là? Note pour trop tard, je connaissais pas. Note pour trop tard. Où justement, il parle de ça, le fait que voilà, l'ado, le jeune, a souvent tendance à jouer son rebelle au cœur de la famille, au sein de la famille. Et Orelsan dit à un moment, il a des mots très beaux là-dessus. Très beau, voilà. Allez. Je vous ai mis ça pour aller vous chercher un horoscope, c'est parti. Hop, le premier, la première à me donner son signe astrologique dans le chat. Ouais, je crois que c'est Capricorne qui a gagné. Les modos, vérifiez, pour moi c'est Mag... Oh, enfoiré. Alors il y a un pseudo ici qui est Mag, M-A-G, Mag comme magazine, Ross comme R-O-C-E, Ross, et Beat comme le rythme, B-E-A-T. Voilà. Que je me suis fait avoir une première fois il y a très longtemps, qui est un habitué, qui est un fidèle de cette chaîne. Voilà. Mag, impeccable. Rose, impeccable. Beat. And the beat goes on. C'est impeccable. Évidemment, tu lis ça rapidement. C'est comme tu as gagné. Eh bien, je vais lire ton pseudo, ma grosse bite. Tu as gagné le concours de l'horoscope. Et donc, on va lire Capricorne. On y va. T'as gagné. Hein. Je lis jamais son pseudo. Je dis ma grosse en général. Ma grosse. Jamais en entier. Tu as gagné. Je ne le répéterai pas d'ailleurs. Capricorne, ma grosse. Putain, je vais t'appeler MGB. MGB, je vais t'appeler. MGB maintenant. Capricorne, cœur, si vous êtes contrarié, expliquez-vous plutôt que de bouder. Ça, c'est les ados, ça. Les ados, vous voyez. Réussite, ne vous laissez pas aller, faites tout pour mener à bien les projets qui vous tiennent à cœur. Forme, équilibrez vos repas. Ok, les Capricornes ? Okay, je vais lire le mien rapide, vite fait, vite fait, vite fait. Taureau, cœur, les affaires de cœur prendront une place de choix. Bah, l'amour. Réussite, vous surmonterez facilement les quelques obstacles que vous trouvez sur votre route. Mais je suis une machine, moi. Forme, évitez les excès ou votre foie va se rebeller. Pff, pas de sucre, pas de chocolat, pas d'alcool. Qu'est-ce que c'est que cet horoscope ? Ça n'a aucun sens. Aucun sens. On débranche la tablette. On va essayer de lancer un petit stream de gaming. Parce qu'ici, on est des gamers. C'est une chaîne de gaming. L'actualité, c'est devenu... C'est un prétexte. Non, pas de chocolat, je suis au régime, je fais pas assez de sport. Alors, j'attendais un message très important. Putain. Attendez, j'envoie juste... Ah, non, pas de message. Attendez, moi j'envoie un message. Bougez pas, Mathieu. C'est pour un rendez-vous de cet après-midi, Mathieu. Hello Mathieu, virgule, désolé de te déranger, point, le rendez-vous de 14h30, virgule, c'est en visio ou en présentiel, point d'interrogation. Mathieu avec deux T. Voilà. Voilà, ça, je voulais vérifier ça. Ah! Voilà, donc ça c'est OK. Alors sachant que j'ai un rendez-vous à 12h30 en Teams, donc là on a une grosse demi-heure, hein, grosse demi-heure pour éventuellement tenter, je dis bien tenter parce que je ne l'ai pas téléchargé, de se faire un petit Fall Guys.